Bonjour, je suis Danilo Duchesne et je souhaite la bienvenue sur le rendez-vous marketing, le podcast 100% dédié à l'acquisition en ligne. Qu'elle se fasse via les médias sociaux, la publicité en ligne ou le contenu, vous trouverez sur ce podcast des astuces, des bonnes pratiques et des stratégies déjà appliquées par des consultants spécialisés, agences et marques à succès pour booster votre acquisition. Et quant à moi, je me charge de tout dégrossir avec mes invités ou en solo, afin que vous puissiez mettre en pratique ces conseils et ces stratégies dans votre business. Mais attention, dans le digital, ce qui était vrai aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain, alors abonnez-vous à ce podcast pour rester constamment à jour. Ce podcast est rendu possible par DHS Digital, l'agence Social Ads experte en publicité Facebook que j'ai lancée pour accompagner les marques, jeunes ou établies, à accélérer leur croissance. Pour y arriver, on a développé une approche de la publicité qui combine expertise des leviers Social Ads, expertise créa et conseils stratégiques pour l'e-commerce. Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode. Aujourd'hui, je reçois Julien de Ménonville, le cofondateur de Kick Ads, qui est une agence Social Ads et UGC pour l'e-commerce. Concrètement, Julien et son associé Emeric ont pour mission de développer votre marque grâce à des vidéos authentiques et optimisées pour la conversion. Depuis leur parcours en agence de marketing digital, ils ont tous les deux développé une expertise très forte sur le media buying Facebook. Mais en observant les performances de leur créa UGC sur certains de leurs comptes, ils ont décidé d'apprendre à produire des contenus UGC pour leurs clients à l'aide de deux approches, soit en le faisant eux-mêmes ou soit en ayant recours à un réseau de créateurs qu'ils ont développé en quelques mois seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont actuellement plus de 900 créateurs avec qui travailler. Ce que j'ai beaucoup aimé en discutant avec Julien avant ce podcast, c'est qu'il participe activement à la création de contenu UGC alors qu'ils avaient finalement très peu d'expérience en montage vidéo avant ça. J'ai donc demandé à Julien de venir sur le podcast pour nous expliquer comment ils ont fait. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma conversation avec Julien dans ce nouvel épisode du podcast. Salut Julien, bienvenue sur le rendez-vous marketing.
Salut Danilo, merci de m'accueillir.
Je t'en prie, vraiment content de t'avoir. Pareil, t'as lancé une boîte récemment.
Ouais, moi aussi je suis content depuis le temps qu'on se suit. Donc ouais, effectivement, on a lancé un business avec mon pote Emeric. C'était un side business à la base. On l'a lancé en mai puisqu'Emeric et moi, on était tous les deux chez Ad Premier, qui est une agence de marketing digital Sophie Polytel. Nous, on croit fortement au UGC depuis qu'on voit que ça explose aux US. Donc, on s'est dit qu'il y avait un truc à faire. On a vraiment lancé ça en parallèle de notre job au départ. Et puis, en fait, ça a très, très vite, très bien marché. Donc, on s'est dit que ça ne pouvait pas rester un side business, qu'il fallait vraiment qu'on s'y mette sérieusement. En fait, même pour être transparent et parler chiffres, quand on a démarré le truc, on a fait 2-3 posts LinkedIn pour parler un petit peu de ce lancement. Ouais. Et dès le premier mois d'activité, on a fait 11 000 euros de chiffre d'affaires.
C'est énorme.
Ce qui est pas, c'est pas stratosphérique, mais on va dire que en parallèle d'un vrai job et en ayant assez peu communiqué dessus, c'était quand même très encourageant.
Ouais, après un mois, faire 11 000 euros, je te confirme, c'est hyper bien, je trouve, pour une activité de prestation d'agence. Mais c'est vrai que c'est intéressant que tu nous parles de Kick Ads. Est-ce que c'est juste une agence qui fait de l'UGC pour Facebook Ads ou encore autre chose?
Alors, au début, quand on l'a lancé, c'était vraiment que de l'UGC parce que nous, on est Media Buyer Social Ads avec Emeric. Moi, j'étais Head of Social Ads chez Ad Premier. Emeric, c'était un de mes principaux consultants. Et on savait qu'on avait toujours notre activité de Media Buyer chez Ad Premier qui nous plaît. Donc, ça n'allait pas être quelque chose qui allait nous manquer à ce moment-là. Mais à partir du moment où on a décidé de se mettre à 100% sur Kick Ads, on savait que voilà, ça ne nous intéressait pas de faire que de l'UGC, sachant qu'en plus, au-delà de notre propre désir de continuer notre activité de media buyer, nos clients nous faisaient des demandes là-dessus. On s'est rendu compte qu'on avait des clients qui voulaient que de l'UGC et des clients qui rentraient par cette porte UGC et qui, du coup, derrière, nous demandaient également d'assurer la gestion de leur campagne. Donc, du coup, on a développé Kick Ads petit à petit. Emeric, lui, il a donné sa démission en août et il est depuis septembre à 100% sur Kick Ads. Moi, je suis à 100% sur Kick Ads depuis cette semaine. J'ai fini mon rôle chez Ad Premier vendredi soir.
Ouais.
Donc voilà, et donc au cours des derniers mois, on a pas mal pivoté autour de notre product market fit avec Emeric.
Ça fait combien de temps que vous avez lancé Kick Ads? Désolé de t'interrompre.
Non, non, on l'a lancé en mai, en mai de cette année.
Ok, d'accord. Donc, ça fait mai, juin, donc ça fait 6 mois.
Ça fait 6 mois, exactement.
Ok.
Exactement, ça fait 6 mois. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on tient la bonne formule qui en tout cas, ce qui fonctionne. On signe pas mal de prestations sur ces offres-là, sur ce mode de fonctionnement-là. Donc, en fait, on a 3 activités phares autour de
Ok.
KitKat. Alors, le UGC, ça reste quand même notre principale bannière, hein.
Oui.
Mais voilà, on a trois briques. La première, c'est tout simplement un accompagnement marketing. Parce que KitKat, en fait, c'est le fruit de constats qu'on a fait avec Emeric au fil du temps dans notre job de media buyer en social ads. Et l'un de ses premiers constats, c'était qu'en marketing, bah, beaucoup de nos clients, beaucoup des marques avec lesquelles on bossait, et même des fois des très grosses marques, bah, ils connaissent pas ou mal leur KPI.
D'accord.
Voilà, on va échanger avec eux à propos de leurs principaux KPI, et on sent que les informations qu'ils nous donnent, des fois, elles sont un petit peu estimées aux doigts mouillés. Pareil en ce qui concerne le funnel de conversion. On regarde avec eux leur site web pour essayer d'identifier des axes d'amélioration, et on se rend compte qu'en fait, ils sont tellement immergés dedans depuis tellement longtemps qu'ils n'arrivent plus à être objectifs, ils n'arrivent plus forcément à se mettre à la place du client, du consommateur. Donc là, nous, on est aussi capable de les accompagner sur ces 2 aspects, c'est-à-dire que on va travailler avec eux à la définition d'un vrai tableau de bord marketing, parce que lancer des campagnes sans vraiment connaître ces KPI, bah, c'est quand même assez dangereux. Et bah, ne pas avoir un site web qui est parfaitement optimisé pour la conversion, c'est tout aussi dangereux. Donc nous, on va amener cette brique marketing en début de prestation. Que le client vienne nous voir pour du UGC ou que le client vienne nous voir pour du media buying, dans tous les cas, nous, on va toujours avoir un échange très marketing au départ parce que bah, on s'intéresse à la marque et c'est normal, c'est pour ça qu'on fait ce métier.
Ok.
Donc voilà, on a vraiment cette brique marketing qui est forte au démarrage. Ensuite, donc on a effectivement le côté créa, donc très axé UGC parce que bah, tout simplement pour moi, c'est l'évolution de la créa dans les social ads aujourd'hui. Je veux dire, le digital, les social ads, tout ça, c'est vivant, ça bouge, ça évolue. Les social ads n'ont pas toujours eu le succès qu'ils ont aujourd'hui. Moi, encore aujourd'hui, je vois des marques qui ne croient qu'au Google Ads et qui ont du mal à passer le cap de se mettre aux social ads. D'ailleurs, j'ai certains de mes clients qui sont presque seuls des fois sur leur marché. Donc, bah, ça me donne envie de remercier leurs concurrents parce qu'on a un vrai boulevard devant nous pour notre acquisition.
Ouais.
Donc, effectivement, tout ça, c'est vivant. Tout ça bouge. C'est pas figé. Le monde du marketing, du digital, des social ads évolue en permanence. Et c'est vrai aussi pour la créa. Et il y a tellement d'annonceurs maintenant sur les social ads, puisque c'est vraiment un canal qui s'est démocratisé, que les placements des différentes régies sont saturés. Et ils sont saturés de pubs qui, à mes yeux, sont beaucoup trop chiadées, beaucoup trop marketées. Les gens en ont marre, en fait, de voir ce genre de publicité, ça leur parle plus. Et ce qu'on constate aujourd'hui, il y a même des études qui ont été faites
Par méta.
par Meta notamment. Il y a un constat qui est fait, c'est que les gens sont vraiment à la recherche d'avis et de recommandations.
Ouais.
Je pense que ça, c'est le premier constat qu'on a pu faire là-dessus, c'est lorsqu'il y a eu le grand boom des influenceurs. Sauf qu'aujourd'hui, les influenceurs, bah, ça coûte très cher. Donc, il y a ce qu'on appelle les micro-influenceurs, qu'on appelle également les créateurs de contenu, qui, eux, coûtent pas du tout la même chose. Et puis, finalement, c'est aussi le côté anonyme de ces personnes qui fait que, bah, il y a du potentiel.
Oui, on les
Donc,
connaît pas
le
tous.
UGC, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un contenu qui va venir se fondre, finalement, dans les contenus organiques qui existent sur les placements des réseaux sociaux. Et ils sont perçus par les personnes qui sont sur ces plateformes comme des recommandations, comme
Oui.
des avis des personnes qui vont vraiment partager leur expérience d'achat et d'utilisation d'un produit, d'une marque, etc. Et c'est vrai qu'avec Emeric, on entendait beaucoup ce chiffre, 30%. 30% en moyenne d'augmentation des performances sur des campagnes social ads qui ont recours au UGC. Pour moi, ce chiffre-là, il voulait pas dire grand-chose parce que j'ai toujours estimé que de la data, faut la contextualiser.
Oui, c'est
Quand
ça.
on parle de chiffres, bon, bah, très bien, souvent c'est les chiffres aux États-Unis. Qu'est-ce que ça vaut en France? Qu'est-ce que ça vaut pour telle marque, pour tel marché, pour telle industrie? Bah, en définitive, je sais pas si on pourrait le dire dans tous les cas de figure, mais avec Emeric, nous, on l'a fait ce constat-là. On a notamment échangé récemment avec l'un de nos clients, les jus PAF. On suit en fait nos clients sur la partie créa pour savoir justement si nos créas ont performé. Comme ça, s'ils reviennent travailler avec nous sur la partie créa, bah, on est capable de tirer des apprentissages des créas qu'on a précédemment produites pour eux. Et c'est ce chiffre souvent qui ressort. On est en moyenne autour des 30% d'augmentation de performance par rapport aux créas sur lesquels ils travaillent habituellement.
Ça, c'est vraiment un bon insight. Donc ça, c'est des choses que vous voyez aussi sur vos clients avec qui vous bossez. C'est vrai que tu ne l'as pas précisé, mais certains de vos clients ne délèguent pas leur campagne. Donc on peut dire qu'une grosse partie de vos activités, c'est de la créa et que vous êtes proche d'une agence créa qui fait un peu de média pour les clients donc, qui en ont besoin.
Alors, il y a encore, encore récemment, effectivement, c'était le cas, c'est-à-dire qu'on a vraiment démarré plutôt comme une agence créa centrée sur le UGC. Ouais. Après, est venu se rajouter la brique Media Buying. Donc, du coup, on était, je dirais, à 75-25 en termes de répartition. Ouais. Et puis, petit à petit, sans forcément que nous, on appuie là-dessus en termes de communication sur le plan commercial, bah, ce rapport, en fait, il a continué d'évoluer. Et là, aujourd'hui, je dirais qu'on est à 50-50.
Ok, d'accord. Intéressant à savoir. Est-ce que pour toi, c'est important de gérer les campagnes des clients pour qui tu fais l'UGC ?
Alors, pour moi, c'est important, oui, dans le sens où bah, moi, de base, je suis media buyer. Et même si je fais ça depuis quelques temps maintenant, puisque bah, j'ai 42 ans, je suis dans le web depuis que j'ai 22 ans.
Ok.
J'ai géré mes premières campagnes Facebook Ads, c'était en 2015, donc ça commence à remonter à quelques temps. Et pour autant, je me suis pas lassé du truc. J'aime toujours le faire. Donc déjà, parce que j'adore ça, oui, c'est important pour moi de pouvoir gérer leurs campagnes. Mais au-delà de ça, pour moi, ça fait sens. Tout simplement dans une démarche de gestion verticale, tu vois. Nous, on a la prétention, quand on a des clients qui viennent nous voir pour de la créa, de savoir, parce qu'on est média buyer en social ad, ce qui fonctionne. Parce qu'on a vu des tas de créas, qu'on a analysé des tas de créas, et que du coup, on est capable de proposer et de produire des créas qui performent. Mais du coup, c'est vrai aussi pour la partie média buying. Et du coup, pour nous, ça fait sens de dire, OK, on a produit vos créas, mais si on est capable de savoir pour vous quels sont les créas qui performent, bah, on est capable aussi de trouver la configuration de campagne, d'audience, etc. qui marche. Puis surtout que nous, derrière, ça va nous permettre d'avoir une plus grande réactivité parce qu'on va tout de suite pouvoir analyser les datas à chaud et voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. On va pouvoir analyser beaucoup plus rapidement, avec beaucoup plus de réactivité, les campagnes qu'on a produites au moment où on les a diffusées pour pouvoir derrière en produire de nouvelles, etc.
Ah ouais, c'est ça que j'allais dire. C'est qu'en fait, si vous pouvez produire la meilleure créa du monde, si elle n'est pas bien diffusée par l'annonceur parce qu'il ne l'a pas mis dans la bonne campagne ou qu'il n'a pas bien structuré la campagne avec certaines audiences pour que ces créas-là en particulier soient diffusées, ça ne marche pas. Et puis même, on sait très bien, si on a une audience avec 10 créas et qu'ils ont balancé vos deux créas UGC que vous avez développés mais que Facebook ne les diffuse pas pour telle ou telle raison, c'est embêtant. Donc, il y a plein de facteurs qui jouent pour sa performance.
Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Et il y a un autre facteur aussi qui est tout bête, qui tient en un mot, objectivité. J'ai rencontré énormément de clients qui avaient des idées très arrêtées, ce qui est normal. On en a tous, hein, des idées très arrêtées sur les créas qui marchent, les créas qui ne marchent pas, les créas qui leur plaisent surtout et les créas qui ne leur plaisent pas.
Oui, ça aussi, ouais.
Moi, le monde de la créa dans les social ads, ça fait longtemps que j'en parle dans mes posts LinkedIn comme... le cimetière des convictions ébranlées. Parce que moi, le premier, ça m'est arrivé des tas de fois de balancer des créas dans des campagnes en me disant je suis sûr que c'est celle-là qui va cartonner.
Et
je suis sûr que celle-là va se voter. Et c'était tout l'inverse.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et donc, ça, tu penses que le fait de gérer les campagnes pour eux fait que tu as moins de billets psychologiques comme quoi tu dis ouais, comme celle-là va marcher, je vais essayer de la diffuser plus ou en tout cas de lui laisser plus de chances de réussir. Alors que là, c'est vraiment, on va dire que c'est la data qui parle. Il n'y a pas d'émotion.
Exactement. Je vais faire preuve d'objectivité parce que je sais que ça peut se produire, même si j'ai toujours mon avis, c'est humain, mais je sais que je peux être aussi complètement à côté de la plaque. Et puis, il n'y a que la data pour dire la vérité. Donc, je vais diffuser ma campagne avec toutes mes créas, celles que j'aime le plus et celles que j'aime le moins.
Voilà,
et je vais donner des chances égales aux unes comme aux autres pour voir ce qui marche.
Alors que ce n'est pas toujours ce qu'il faut faire, mais après, une fois que ça commence à se diffuser, il faut parfois couper ce qui ne marche pas décliner ce qui marche bien. Et donc ça, c'est vrai que si vous faites des prestations UGC pour vos clients, je ne doute pas que vous n'allez pas faire tous les UGC d'un coup, vous allez peut-être en faire quelques-uns, voir lesquels répondent le mieux, Et puis après, en créer d'autres en fonction des performances. C'est-à-dire que si vous savez qu'un unboxing, ça marche très, très, très bien, vous allez quand même faire de l'unboxing. Mais si vous voyez que ça ne marche pas, vous allez faire d'autres formats. Et si l'unboxing marche bien, vous en ferez d'autres, simplement. Pour moi, c'est comme
exactement.
Ça que je raisonnerais.
Oui, mais complètement. Il y a ça et il y a le fait que quand tu gères des campagnes pour une marque, tu vas régulièrement donc réaliser un reporting, expliquer à la marque ce qui a marché,
ouais.
pas marché, ce que tu as fait, ce que
ouais.
tu vas faire. Mais la marque elle-même ne va pas forcément se permettre d'aller mettre le nez dans le compte et d'aller farfouiller dans les campagnes que tu gères. Et pour la partie créa, je pense que c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que quand le client vient te voir que pour la créa, il y a ce côté subjectif que j'évoquais il y a 5 minutes, alors que lorsque tu gères les deux simultanément, bah même si les créas, tu les produis pour la
pour
marque
client, ouais.
qui est ton client, d'une certaine manière, tu les produis surtout pour toi, puisque c'est toi finalement qui va exploiter ces créas-là pour tes campagnes.
Exactement.
Donc, on va dire qu'il y a un regard qui est moins fort de la part du client sur le résultat, comment dire, la créa avant utilisation. Et du coup, il y a moins l'influence de « j'aime ça, j'aime pas ça ». Et donc du coup on peut se concentrer nous sur vraiment les aspects qui d'après nous sont les plus pertinents pour performer.
Ouais, tout à fait. Et pour revenir sur le UGC, donc tu l'as défini, tu as expliqué que c'est un contenu qui est créé par des utilisateurs qui peuvent être par exemple des micro-influenceurs qui prend finalement la forme d'un avis, d'une recommandation parce que comme tu disais, les études montrent que les consommateurs en ligne, ils ont besoin d'acheter selon des recommandations qu'ils aiment en écouter, en lire. Donc ça fait sens. Est-ce que l'UGC prend d'autres formes? Est-ce que c'est systématiquement une personne qui va parler face caméra et du coup recommander un produit ou est-ce que ça peut prendre d'autres formes? Voilà, c'est ma question.
Ça, c'est une question qui est super intéressante parce que avec Emeric, l'une des premières choses qu'on a constaté au fil des calls découvertes qu'on a fait avec nos clients depuis qu'on a lancé Kickads, c'est que chaque client a sa vision de ce qu'est un UGC. Ils sont pas tous d'accord, ils lui donnent pas tous la même définition.
Okay.
Et donc on a fait ce constat qu'il y a des points de divergence et des points de convergence.
Okay.
Ce qui est tout à fait logique parce que il y a pas une définition gravée dans le marbre de ce qu'est un UGC, si ce n'est ce qu'on voit aux États-Unis. Du coup, avec Emeric, on s'est prêté à ce petit exercice de faire justement un petit peu la part entre les points de convergence et les points de divergence.
Ouais, je vois ce que tu veux dire,
Déjà, pour revenir à la racine émythologique de l'acronyme UGC, UGC, donc effectivement, c'est le User Generated Content, donc c'est un contenu généré par un utilisateur. Souvent, c'était des personnes qui tout simplement partageaient du contenu sur les réseaux sociaux et à l'occasion partageaient leur expérience d'achat d'un produit, par exemple sur un site e-commerce, et qui partageaient leur satisfaction, qui montraient comment il ou elle utilisait ce produit, et la marque pouvait choisir d'utiliser le résultat pour des campagnes publicitaires.
Moi, c'est comme ça que je le voyais, ouais.
Voilà, le UGC, c'est ça à l'origine. Hein. C'est né, c'est né de ça, et c'est né, pour être précis, c'est né sur TikTok.
D'accord. Né sur TikTok ? Mais avant, il y en avait déjà du UGC, genre sur Instagram il y a quelques années. Genre si moi, par exemple, je prends un Starbucks, je fais une photo de mon café.
Complètement. Alors effectivement, le UGC, c'est bien ce que tu dis là, parce que il faut le préciser, un UGC, c'est pas forcément une vidéo,
ça peut être
aussi une statique. Mmh. Et tu vois, tiens, ça fait typiquement partie des points de convergence ou divergence auxquels on a été confronté avec Emeric, c'est que y a des gens pour qui un UGC, c'est forcément une vidéo. Mais tu as complètement raison, un UGC, ça peut être une statique, et on a constaté ce genre de choses sur Instagram il y a déjà un moment. On va dire que c'est avec l'arrivée la démocratisation de la vidéo 9/16e en format court sur TikTok que le style UGC c'est vraiment développé et a vraiment connu une forte croissance pour l'utilisation de ce type de contenu dans les campagnes publicitaires.
Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est quel style ? C'est finalement, est-ce que c'est la vidéo face caméra ? Est-ce que c'est le déballer un produit ? Qu'est-ce que ça peut être exactement ?
Alors, au niveau des points de convergence, ce qu'on peut dire, ce qu'on a pu constater, on en a parlé avec pas mal de personnes, c'est qu'on est forcément donc, sur un produit qui est photographié ou filmé au smartphone.
Okay.
On est forcément donc sur un partage d'expérience à propos d'une marque ou d'un produit.
Ouais.
Là où les gens ne sont pas forcément d'accord, c'est déjà au niveau de la qualité de la vidéo. Il y en a qui estiment qu'un vrai UGC, ça doit être brut de décoffrage.
D'accord.
J'exagère, mais limite filmé au Nokia 8310.
Ouais, je vois. Avec le texte qu'on peut retrouver sur les applications TikTok et Instagram, donc le surlignage ou un
exactement.
Truc très organique. Ouais.
Il y en a d'autres qui estiment qu'une vidéo doit être un peu plus léchée pour deux raisons. La première raison, c'est que de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, il y aura toujours le barrage client. Le client va toujours donner son avis sur ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, oui. Avant même de savoir si la vidéo elle peut être performante ou non. Et si le client lui soumet une créa qui ne lui plaît pas, qui n'est pas esthétique un minimum, jamais elle aura la chance et elle aura l'occasion d'être diffusée. Donc ça c'est la première raison, mais une deuxième raison qui a plus d'importance je trouve, c'est que moi j'ai discuté pas mal du format UGC avec des personnes qui finalement passent assez peu de temps sur TikTok, parce que la plupart des clients avec lesquels on échange en définitive ce sont pas des personnes qui connaissent très bien le canal TikTok.
Okay.
Alors attention, nous on n'est pas full TikTok avec Emeric, pas du tout, mais c'est quand même un canal super important, comme je l'ai dit, pour moi c'est vraiment sur ce canal que le format s'est développé.
D'accord,
et
ouais.
Quand on passe du temps sur TikTok, ce qui est mon cas, je pense que je fais partie des quelques ouais. personnes de 42 ans qui passent du temps sur TikTok. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, c'est Savannah Sanchez, une référence dans la création de UGC qui est basée en Californie aux États-Unis, a balancé une info récemment, une data
ouais.
De Meta, je crois d'ailleurs.
Ouais.
Non, pas de Meta, je te dis n'importe quoi, de TikTok,
ouais.
de Biden. Qui disait que les principaux consommateurs sur TikTok, ce sont les femmes de 35 à 45 ans.
Trop intéressant.
Incroyable,
écoute,
hein.
Savannah Sanchez, elle est bien.
Mm. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est une de mes principales références.
Très intéressant.
Elle fait partie, les contenus qu'elle produit font partie des contenus que je benchmark le plus lorsque je dois travailler sur un projet.
Ok.
Du coup, ouais, je disais, moi, je fais partie de ceux qui pensent que une vidéo UGC peut se permettre et doit se permettre d'être relativement élaborée, parce que quand on regarde aujourd'hui les contenus qui sont partagés par les gens qui sont sur TikTok, bah, on voit que ceux qui ont notamment des smartphones de qualité s'amusent. Ils vont exploiter des applications telles que CapCut ou Videolip.
Ouais.
Qui sont les deux applications références qui leur permettent de générer des effets assez sympas avec assez peu finalement de connaissances et de technicité. Et du coup, ça permet de réaliser des choses assez chouettes avec des effets de transition vraiment sympas. Et c'est ce genre de contenu aujourd'hui qu'on voit essentiellement. Moi, j'ai été du coup confronté à des situations avec des clients où ils adoraient les vidéos qu'on leur avait faites, mais il y en avait certaines où limite ils les trouvaient un peu trop chiadées et ils avaient peur que ça s'éloigne de leur référentiel du format UGC. Et moi, je réalisais qu'en fait, on n'avait tout simplement pas le même référentiel parce que bah, finalement, moi, je passe vraiment du temps sur les réseaux sociaux
d'accord.
comme utilisateur.
Et donc, tu vois beaucoup d'UGC qui sont d'une meilleure qualité que ce que les gens ont en tête. Ils pensent que ça doit être un contenu brut de décoffrage et que finalement, tu vois des UGC sur TikTok qui sont très bien montés, mais qui restent quand même dans leur nature des UGC. Parce que
ça va même encore plus loin que ça. Les contenus dont je parle sont pas forcément des UGC. Ce sont même des contenus lambda, des contenus simplement organiques postés par des utilisateurs lambda.
Oui,
sauf que les gens aiment passer du temps à produire des trucs un peu sapins, un peu fun et un petit peu élaborés à diffuser sur TikTok. Le contenu sur TikTok se professionnalise d'une certaine façon.
Ok.
Et effectivement, voilà, c'est vrai que il y a ce côté un petit peu délicat du référentiel. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote. Il y a quelque temps de ça, ma femme me surprend pour la énième fois sur mon smartphone. Et elle sait que je poste beaucoup sur LinkedIn, même si c'est moins vrai depuis un bon mois et demi.
Ouais.
Et elle me dit, tu passes vraiment tout ton temps sur LinkedIn. Et je lui ai répondu, non, c'est pas vrai. Je suis aussi sur TikTok.
Et ouais, TikTok, sauf que tu postes pas.
Sauf que je poste pas encore. Et maintenant que je suis à 100% sur KickAds, attention.
T'as envie d'essayer. Bah, t'as raison, ça, franchement. Bah, il y a plein de personnes de ton âge qui sont sur TikTok. Faut arrêter de dire que personne, enfin, que les gens au-delà de 40 ans n'y sont pas. Que tu dis toi-même, entre 35 et 45 ans, t'as beaucoup d'acheteurs. Mais si on revient, c'est vraiment les fameux points de convergence. Donc, toi, tu dis que finalement, un UGC, c'est un contenu qui est généré par l'utilisateur, qui est filmé ou photographié avec un smartphone, qui est finalement pas si brut de décoffrage que ça, parce qu'on en voit de plus en plus qui sont faits sur TikTok, qui sont de bonne qualité, qui sont faits avec un très bon smartphone et avec lesquels il y a beaucoup d'effets. Évidemment, comme tu disais, un UGC qui forcément est pas parfait dans la façon dont il a été filmé peut quand même être considéré comme un UGC, mais tu dis qu'aujourd'hui, beaucoup de clients, annonceurs, pardon, ont en tête un contenu, on va dire, de merde par rapport à un contenu qu'ils feraient normalement avec une équipe de montage professionnelle.
Alors, c'est là toute la grosse difficulté finalement de ce métier qu'on a choisi avec Aymeric. On apprend parce que c'est un métier qui est nouveau finalement. Donc, on est confronté à des situations auxquelles personne avant nous a été confronté. Il n'y a personne qui a pu nous conseiller là-dessus. Ouais. C'est nous qui essayons un petit peu les plâtres pour les prochains,
oui,
on va dire.
Pour les prochains.
Et donc, voilà, cette difficulté à laquelle on est confronté, c'est que on va se retrouver face à un client A qui, lui, va vouloir du contenu vraiment brut. Et. Ouais. De manière un petit peu contradictoire, il va également vouloir y diffuser énormément son ADN de marque.
Ok, ouais, d'accord. Et ça, c'est un truc que je trouve que dans les UGC, diffuser trop son ADN de marque, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée.
Bah, je pense que ça tue beaucoup plus un UGC que le côté élaboré et pas élaboré de la vidéo.
Je suis d'accord. Ouais. Moi, dans UGC, il ne faut pas troquer ton ADN de marque, sinon ça ressemble à une publicité. Par exemple, un exemple que moi, je n'aime pas, c'est voir des UGC où à la fin, tu as le logo de la marque. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens.
Ouais, effectivement, mettre le logo de la marque à la fin, ça peut être un petit peu trop, ça peut avoir un petit côté un petit peu trop brandé.
Ah oui.
Mais nous, on a des clients, certains de nos clients qui ont ce genre d'exigence. Après, on a aussi la situation où on a des clients qui vont nous demander de leur fournir un genre de trombinoscope des créateurs et des créatrices avec lesquels on travaille. Ce qu'il faut savoir, c'est que avec Aymeric, pour la petite histoire, quand on a démarré, voilà, en termes de ressources, on partait vraiment de zéro. Donc, premières créas qu'on a réalisées, c'était beaucoup des personnes de notre entourage. On filmait nous, on se débrouillait, quoi. Et puis, petit à petit, on a développé notre réseau de créateurs et de créatrices. Okay. Aujourd'hui, on a un Discord sur lequel on a réuni et on anime pas loin de 900 personnes.
Okay.
Donc, voilà, on a quand même un gros réseau de créateurs et de créatrices à date. On a aussi des monteurs. On a compris, en fait, que... il y avait une partie qu'il fallait qu'on automatise un petit peu davantage par rapport au côté très artisanal de nos débuts. Comme ça, nous, ça nous permet de nous concentrer sur l'aspect le plus marketing du produit, c'est-à-dire la rédaction des scripts.
Oui, c'est ça. Je vais t'en parler. Donc aujourd'hui, pour bien résumer, une prestation UGC pour vous, c'est que vous allez définir un peu la stratégie que vous allez mettre en place, quels sont les différents UGC qui vont être produits. Vous allez réfléchir aux créateurs dont la marque a besoin pour son objectif, donc en fonction de sa cible. Et donc derrière, aux créateurs, vous les briefez sur ce qu'ils doivent dire. Donc vous scriptez plus ou moins la façon dont ils doivent créer le contenu, parce que c'est des contenus créés par des utilisateurs, dans ce cas-là, des micro-influenceurs, des créateurs. Et eux, en fait, ils font le montage aussi. C'est-à-dire, ils font le contenu, ils montent, etc. Ils vous envoient le truc et vous faites un dernier check.
Alors, on a des monteurs à part entière. C'est-à-dire que, alors pour te donner les étapes, donc on va pas mal échanger avec le client et lui fournir une fiche avec des questions précises pour s'immerger dans son domaine, pour qu'on s'approprie en fait son territoire métier. Ça, pour nous, c'est indispensable. Et c'est là où on amène de la valeur. Là, en fait, le point sur lequel on appuie dès le départ avec notre client, c'est qu'on n'est pas une plateforme de mise en relation comme les plateformes UGC qui existent déjà. Nous, on a volontairement choisi le format agence pour amener nos compétences en marketing.
Donc, oui, j'allais dire, parce que, par exemple, Facebook lance, Meta lance sa plateforme de créateurs pour mettre en relation les marques et les créateurs. Mais ce n'est pas suffisant.
Non, ce n'est pas suffisant. Pour moi, il va vraiment manquer ce côté agence. C'est la raison pour laquelle, finalement, l'agence aura toujours un rôle à jouer parce qu'il y a un accompagnement que les personnes en agence qui ont cette compétence, cette expertise en marketing peuvent apporter à leurs clients. Et tu vois, quand je te parlais au début du podcast du problème des KPI, c'est typiquement tu vois, ce genre de choses qui montrent qu'il y a des points sur lesquels le côté agence sera toujours très important pour accompagner les marques. Donc nous, on va avoir ce côté échange pour nous approprier le domaine de notre client, de la marque avec laquelle on va travailler. Et ensuite, on va rédiger un certain nombre de scripts. On va échanger avec nos clients à partir de ces scripts-là. Mais le script, ça va être vraiment l'élément central de la presta.
Bien sûr, ouais, bien sûr.
Ensuite, on insiste sur le fait que non, on ne soumet pas un trombinoscope au client. Tout simplement parce que justement, la différence avec un autre tuyau de créa, c'est que nous, ce qu'on fait, c'est du UGC. C'est pas un studio de production où on fait appel à des acteurs, on va sur des plateaux de tournage, etc. Ce ne sont pas des acteurs, ce sont des créateurs de contenu. Et comme on veut éviter justement que le format UGC soit trop dégradé, pardon,
oui, je vois.
Par la marque qui va vouloir y insuffler cette fameuse ADN de marque dont on parlait tout à l'heure,
oui.
On explique aux clients que nous, notre travail en tant que marketeur, c'est justement de s'approprier suffisamment bien la marque pour savoir identifier dans nos créateurs et nos créatrices ceux qui seront les plus adaptés pour tourner dans les vidéos.
D'accord, ouais, je vois tout à fait. Je
Donc
t'as
c'est
fait,
nous
puis après,
qui choisissons les créateurs.
D'accord, vous choisissez les créateurs et est-ce que vous leur donnez une certaine liberté de créer, c'est-à-dire ne pas leur donner un cadre trop cadré justement.
Exactement, c'est ce qu'on fait. Alors nous, en fait, dans les scripts qu'on rédige, il y a comment dire, il y a le discours, il y a le parler qui est précisé, les voix off, le texte, etc. Mais on précise aussi bien aux clients qu'aux créateurs et aux créatrices que c'est une base. Dans les informations qu'on demande à nos clients, il y a une white et une blacklist de vocabulaire.
D'accord,
ça, on le fournit à nos créateurs et nos créatrices. L'idée, c'est justement de leur permettre d'avoir une certaine liberté d'expression. Justement, c'est pas des acteurs, on ne veut pas les brider. On veut que ça reste extrêmement naturel. On va quand même du coup leur fournir ces informations de vocabulaire de manière à ce que, dans cette liberté qu'on leur laisse, ils évitent certaines phrases ou certains thèmes qui seraient rédhibitoires pour la marque.
D'accord,
La difficulté en fait de ce travail, c'est d'arriver à rester toujours sur le point d'équilibre entre le désir de la marque de vouloir faire du UGC, mais en même temps qu'il ne peut pas s'empêcher de vouloir vraiment brander le produit final, et le fait de laisser suffisamment de liberté au créateur pour que ce qu'il va faire, le travail qu'il va réaliser, reste naturel. Un UGC dans lequel on voit que la personne n'est pas à l'aise, dans lequel le texte paraît trop répété, trop récité, forcément, on va lui retirer toute son âme UGC.
Je suis totalement d'accord avec ça, totalement aligné avec tout ça. Si jamais tu as d'autres conseils à donner sur le tournage d'un UGC, n'hésite pas à me les donner maintenant, parce que c'était mes questions d'après, mais je vois que tu t'en parles déjà un peu maintenant, sur les choses à éviter, les choses à absolument faire, à ne pas oublier.
Alors justement, nous, dans le Discord dans lequel on a réuni notre communauté, on partage des tips pour les personnes qui démarrent un petit peu comme créateur ou créatrice, parce que dans cette communauté, on a des personnes plus expérimentées, d'autres moins expérimentées. Donc
bien
on
sûr.
Va leur donner des conseils pour l'enregistrement du son, pour l'éclairage, etc. Et donc, du coup, à partir de là, ils vont réaliser les rushs. On leur demande pas de nous fournir un produit fini. On leur demande de ne réaliser que les rushs. Ces rushs, ensuite, on va les fournir à une personne qui est spécialisée dans le montage.
D'accord.
En fait,
okay,
il va y avoir
d'accord.
Cette étape supplémentaire qui va venir se greffer.
Ouais, j'allais juste te dire, c'est que j'avais regardé une vidéo de Dara Dene, une sorte de Savannah Sanchez 2 aux USA, qui explique qu'en fait, il y a un débat, est-ce qu'aux créateurs, on leur demande le contenu brut sans texte, et après nous, on fait autant de montage qu'on veut, donc pour une même vidéo, on pourrait en avoir 3-4 vidéos pour Facebook ou TikTok, ou est-ce qu'on leur demande, enfin, ou est-ce qu'eux nous autorisent à l'utiliser qu'une fois dans la publicité, tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Alors nous, la façon dont on travaille avec nos créateurs et nos créatrices, c'est qu'on leur fait signer un contrat de cession de droit à l'image, de manière à avoir, nous, ensuite, un contrôle total sur les rushs.
Voilà, vous faites ce que vous voulez avec, quoi. Vous pouvez faire 15 vidéos comme vous pouvez en faire 3.
Alors, les rushs, on leur donne aussi certains éléments pour le tournage. On leur demande toujours de les tourner de base en 9/16, donc le format smartphone, et on leur fournit un template d'un écran TikTok avec le placement des boutons, du texte, etc. Ce qui permet, quand ils vont réaliser leur rush, d'avoir en tête ce qu'on appelle la zone de sûreté, c'est-à-dire la zone dans laquelle doivent apparaître les éléments phares de la vidéo pour
bien
éviter
sûr,
qu'il y ait du coup de la friction avec des éléments qui vont forcément apparaître à l'écran et qui pourraient venir gêner. Donc on va leur donner ça pour la réalisation des rushs, on leur fait signer un contrat pour avoir le contrôle total sur les droits d'image. Ce que nous, on ne fait pas de l'autre côté. Je m'explique. Quand on fournit ensuite les rushs au monteur, le monteur va pouvoir ajouter du texte en incrustation ou des sous-titres, toujours en respectant cette fameuse zone de sûreté, et ensuite il va décliner les vidéos pour d'autres placements publicitaires, notamment au format 4/5, par exemple, pour les fils d'actu sur Facebook et Insta. L'idée, c'est qu'à la fin, on ait différentes déclinaisons de la vidéo, même si elle a été réalisée en TikTok first, pour pouvoir la diffuser sur un maximum de régies, sur un maximum de placements publicitaires. Une vidéo comme celle-là, du coup, on peut à la fois la diffuser sur TikTok, ça peut faire des Reels et des Stories sur Facebook et Insta. On a également le format pour les fils d'actu Facebook et Insta, et ça fonctionne également pour, par exemple, un format collection sur Snapchat.
Ah, bien vu, oui.
Ensuite, donc, on va fournir les créas au client. Et si le client, lui, souhaite une longue durée d'utilisation ou une déclinaison dans d'autres langues, le fait que nous, on possède les fichiers sources, ça va nous permettre une plus grande réactivité dans la déclinaison des créas avec d'autres langues. Et ça va nous permettre également de pouvoir négocier un tarif en lien avec les droits des créas, puisque l'utilisation des créas fournis aux clients sont limitées dans le cadre de la prestation. Si, par exemple, le client, lui, ne veut diffuser ses créas qu'à la base sur Meta et que par la suite, il veut également les diffuser sur TikTok, bah, du coup, ça fait l'objet d'un échange entre nous, puisque d'une certaine manière, on doit lui conférer les droits d'utilisation sur une nouvelle plateforme.
Ah ok, d'accord, j'ai mal compris. Donc dans les droits, l'image que le créateur vous cède, vous signez sur aussi le nombre de plateformes, enfin les plateformes sur lesquelles le contenu sera diffusé.
Oui, alors il n'y a pas que l'aspect financier en fait qui est lié à ça, il y a aussi le fait surtout que ça permet de nous protéger, surtout de protéger nos créateurs et nos créatrices, parce que ça évite que du coup nos créateurs et nos créatrices finissent sur des sites web qu'on ne connaît pas ou sur des bannières à déplacement un peu, voilà. C'est surtout une manière en fait de garder la maîtrise de l'image de nos créateurs et nos créatrices, et c'est parce qu'on veille aussi à ce genre de choses que on a leur confiance.
Mais c'est un très très bon point que tu viens d'ajouter, parce que j'avais pas pensé à ça du tout, et du coup eux ça les met en confiance, qu'ils savent très bien que leur vidéo sera jamais diffusée en dehors de, je sais pas, TikTok, Meta et Snapchat par exemple.
Complètement. En plus on estime que un pack de 10 vidéos, puisque ça c'est notre offre de base pour le UGC, on estime qu'un pack de 10 vidéos 100% dédié à Meta, à 2 200 € le pack créa, on est déjà sur une prestation qui est peu onéreuse, et c'est souvent la raison pour laquelle les clients s'adressent à nous, parce que le ticket d'entrée avec d'autres studios de créa, c'est pas du tout le même montant. Du coup, se mettre d'accord sur un montant complémentaire pour pouvoir diffuser les créas sur d'autres régies et d'autres placements, on reste tout à fait dans l'ordre du raisonnable dans le budget qu'ils avaient pu estimer au départ pour leur créa.
Bien sûr. Et justement, vu que tu parles du nombre de vidéos, il y a un truc qui me vient en tête, c'est est-ce que vous briefez vos créateurs pour que, comme tu le sais, tu puisses faire varier le scroll stopper de la vidéo UGC, c'est-à-dire les 3 premières secondes. Donc je suppose que pour une même vidéo, pour un même produit, une même review, un même témoignage, vous pourriez avoir deux démarrages, deux débuts différents dans la vidéo. Est-ce que vous leur dites, ok, fais-moi 3-4 mises en scène différentes au début ou...
Alors complètement, ça en fait, ça fait partie intégrante de notre Presta UGC, c'est-à-dire que nos clients, on va leur fournir, donc comme je te l'expliquais, une fiche client sur Notion, et dans cette fiche client, on a notamment un tableau pour les scripts. Dans ce tableau, il y a 6 scripts, et pour ces 6 scripts, il y a 2 versions du scroll stopper, scroll stopper A, scroll stopper B, il y a 5 plans, et parfois il y a un closing, c'est-à-dire un call to action. On va mettre par exemple en avant un essai gratuit pour une plateforme, un code promo, etc. Donc ces scroll stoppers, ils sont scriptés à l'avance. Donc, on a ces 6 scripts. Okay. Pourquoi 6? Parce que on en a un en rab entre guillemets pour que le client puisse éliminer le script qui lui plaît le moins.
On va échanger. Moi, je pense que pour les personnes qui t'écoutent, normalement, tu aurais 5 scripts pour 10 vidéos parce que tu aurais. Pour les 5 scripts, tu aurais 2 scroll stoppers, donc 5 fois 2, ça fait 10, mais tu en as un de plus.
Ouais, okay. Exactement, c'est exactement ça. En fait, les 10 vidéos, c'est 5, on va dire, vidéos originales plus une variante du scroll stopper. Et ces 10 vidéos, ensuite, on va les décliner en 9 16e et en 4 5e, puisque la plupart de nos clients, pour l'instant, nous passent commande pour des diffusions sur Meta.
Ouais, c'est logique. Bref, tu disais, tu en as une de rab, donc tu as un script en plus au cas où le client finalement change d'avis, c'est ça?
Et en fait, on en a une de plus qui est éliminatoire, c'est-à-dire que le client peut éliminer le script qui lui plaît le moins, ce qui fait que du coup, on en garde au final 5 et on va décliner ces 5 donc avec une version supplémentaire du scroll stopper, et ces 10 vidéos, on va les avoir à la fois en 4 5e et en 9 16e.
Compris. Avant qu'on passe vraiment à la partie pratique, je vais te poser une autre question sur un sujet dont on a déjà parlé avec justement toi et Aymeric, c'est le fait que tu as certaines agences qui ont un avis critique sur l'UGC lorsqu'elles expliquent que finalement l'UGC, ce n'est pas indispensable pour performer sur des plateformes comme Meta, je dis bien Meta, pas TikTok. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu penses qu'un annonceur peut performer sans UGC ou pas du tout?
Non, je suis complètement d'accord avec elle. En fait, je suis complètement d'accord avec elle dans la mesure où fondamentalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour performer. À partir du moment où tu as un bon produit et à partir du moment où, par exemple, en social ads, tu as validé ton product market fit, tu peux très bien avoir une photo de ton chat et un site web codé avec le cul. Ça peut fonctionner quand même. Après, ce qui risque par contre de se produire, c'est que tu vas te heurter à un plafond de verre parce que tu peux avoir des clients qui seront beaucoup moins timorés, qui eux ne vont pas hésiter à suivre les tendances, à faire de la veille et à par exemple identifier que le UGC c'est un format qui actuellement a le vent en poupe et qui du coup vont se lancer là-dessus. Et ces marques-là, ces marques concurrentes, elles vont commencer à prendre une avance sur toi que tu peux peut-être potentiellement avoir du mal à rattraper par la suite. Je pense que à l'heure du digital et notamment dans le domaine des social ads, c'est compliqué quand même de se dire ouais, c'est qu'une tendance ce truc-là, du coup, je vais pas y aller. Déjà d'une part parce que quand bien même ça serait qu'une tendance, ça n'empêche qu'à l'instant T, ça peut t'aider à continuer de développer ton business. Et puis je pense que l'histoire nous démontre quand même qu'il y a des tendances qui se pérennisent, qui perdurent. Donc, pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Donc, je suis d'accord avec les marques qui disent que ce n'est pas indispensable pour performer. Par contre, je suis d'accord, mais je ne comprends pas le choix de volontairement pas y aller.
Ouais, je vois ce que tu dis. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on a des clients qui n'ont pas d'UGC et qui performent quand même, mais on sait qu'ils pourraient avoir un gain de performance, comme tu disais, d'après l'étude de Meta, ou je sais pas si c'est Meta, mais qui dit que tu peux avoir un gain de performance moyen de 30% si tu ajoutes de l'UGC à tes campagnes.
C'est Meta et HubSpot. Et HubSpot. Il y a HubSpot qui a fait une étude là-dessus aussi, ouais.
Ouais. Ouais, je sais. Enfin, je sais pas justement dans ça, je savais pas. Ok. Non, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Et donc, du coup, il faut pas se fermer à ce type de contenu. Et c'était aussi une de mes questions, c'est pourquoi est-ce pertinent pour une marque de miser sur l'UGC et d'en produire? C'est pour ces raisons-là. C'est qu'en fait, c'est une tendance. Tendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, les utilisateurs sur les plateformes sociales ont tendance à, finissent par convertir grâce au fait qu'ils ont vu une recommandation par un autre utilisateur. Donc, ça existe depuis quelques années, mais ça s'accélère de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, tu as des marques qui prennent le train en marche et du coup font de l'UGC, le sponsorisent, travaillent avec des créateurs. Et d'autres qui ne le font pas encore, qui continuent à avoir des performances, mais qui pourraient se faire doubler par la concurrence ou voir leur performance s'éroder avec le temps parce qu'elles ne se mettent pas au diapason. J'allais dire également que Meta a sorti son nouveau. C'est une nouvelle tactique pour bien performer. Donc, ils appellent le Meta Performance 5. Et parmi ces tactiques-là, il y en a une qui est le branded content, qui est donc de créer du contenu. Non, c'est pas brand. Comment ils l'ont appelé? J'ai oublié comment ils ont nommé cette tactique. Est-ce que tu l'as?
Non, tu me l'apprends en fait, pour être franc.
En gros, ils ont ajouté 5 tactiques pour performer. Donc, tu as le tracking, tu as la simplification du compte et tu as aussi le fait de travailler avec des créateurs. Et je ne sais plus comment ils l'ont appelé. Mais en gros,
mais en fait ils l'ont appelé, je crois qu'ils l'ont appelé le CGU justement.
Tu penses? J'ai vraiment un doute, mais c'est pas grave, le but c'est
parce
juste de dire que
parce que j'ai vu passer un truc comme ça, j'ai vu passer un espace dans le Business Manager récemment pour un client qu'ils avaient appelé le CGU. Ouais, complètement.
Attends, je vais quand même regarder si ça te dérange pas. Meta Performance 5. Et donc là, je vois qu'ils ont déjà une nouvelle page sur, on la mettra peut-être dans les notes de l'épisode, sur leur site, les piliers de la performance. Et là, ils ont mis, marketing à la performance avec des creators. Donc en gros, ils ont carrément dit, aujourd'hui, si vous voulez performer sur Facebook, vous devez faire du contenu qui est orienté sur la performance, donc de l'UGC, avec des creators. Donc c'est même pour ça que dans quelques mois, ils vont lancer leur plateforme pour mettre en relation les marques et les créateurs. Ce qui montre que même eux, en fait, ils incitent les annonceurs à travailler avec des créateurs directement et donc créer l'UGC avec eux et ensuite le diffuser en publicité, soit au nom de la marque ou soit directement via la page du créateur. Ça, c'est un truc hyper important, c'est qu'ils vont faciliter la mise en place, la création de publicité de la part d'une marque, mais en utilisant le compte de l'influenceur.
Moi, je trouve ça très, très fort. Je trouve ça très fort, en fait, que ce soit un propos qui soit directement poussé, soutenu par Meta, d'une part. Mais d'autre part, il y a une autre chose que je trouve extrêmement intéressante, c'est que Meta ne s'est jamais risqué à vraiment développer un espace, une plateforme, un outil pour produire des créas justement pour ces placements publicitaires, en mettant en avant le fait que cette plateforme pouvait produire des créas vraiment très performantes, vraiment une plateforme étudiée pour l'occasion. Meta ne l'a jamais fait tout simplement parce que je pense que s'il avait estimé qu'il y avait du potentiel à le faire, il l'aurait fait. Ils l'ont pas fait et ils le font là. Ils le font maintenant pour ce côté UGC, justement. Ce qui prouve que même eux,
Ouais, c'est
sur
ça.
cette émergence du format UGC, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à aller chercher.
Exactement. Et c'est pour ça qu'on va en parler dans la partie pratique, où on va voir ensemble ben, comment font, enfin, pas seulement comment créer l'UGC, mais quels sont les différents types d'UGC qui existent, quels sont les différents formats, quels sont ceux qui fonctionnent le mieux, quels sont ceux que vous avez l'habitude d'utiliser.
Oui, exactement. Alors, effectivement, il y a des formats un peu type hein, de UGC, des choses qu'on voit assez souvent, notamment dans les vidéos produites par les spécialistes aux États-Unis. Après, il n'y a pas vraiment de règles ni de limites. D'ailleurs, moi, souvent, le seul regret que j'ai par rapport au début avec Emric, quand on faisait nous-mêmes les vidéos, c'est que, bah, comme je savais que je tournais la vidéo moi, je me mettais aucune limite. Des fois, je partais sur des choses assez délirantes, comme par exemple, on a fait des créas pour des produits ménagers bio, et j'avais un scroll stopper où une personne jetait une assiette de sauce tomate par terre qui explosait comme ça,
Super, hyper intéressant.
et j'ai voulu reprendre un petit peu cette idée-là pour un autre projet récemment, et Emric me disait, chaud à mon avis de convaincre un créateur de contenu de péter sa vaisselle. Mais
C'est clair, c'est clair. Bah après, ouais, ça coûte quelques euros, mais quand même.
et sinon, effectivement, il y a des formats qui sont assez connus et qui fonctionnent bien. Il n'y a pas de mal, je pense, à retaper régulièrement dans ces formats-là. Il y a le fameux unboxing, hein,
Ok.
tout le monde connaît. Il y a le problème solution.
Voilà, j'allais dire problème solution, c'est classique. C'est
Problème
toujours ça.
solution, c'est classique, mais pour moi, c'est indémodable et c'est un format qui marchera toujours pour une simple et bonne raison, c'est que ce qui fait que le UGC aussi marche bien par rapport à une pub traditionnelle, c'est que dans les pubs traditionnelles, les annonceurs ont toujours le même travers. Ils veulent montrer toutes les caractéristiques de leur produit. Leurs pubs sont centrées sur le produit et
Tout
eux, ils
à fait,
sont
ouais.
tellement à fond, tellement au taquet sur leur produit qu'ils sont plus du tout objectifs et ils pensent que toutes les petites particularités de leur produit sont hyper cool. Mais elles sont pas hyper cool pour une personne qui voit une pub qui présente ce produit pour la première fois. Elles, ce qui les intéresse, c'est le bénéfice. Elles ont un
Ouais.
problème, il faut que le produit réponde à ce problème et puisse le solutionner. Et c'est là que le UGC devient intéressant parce que le UGC, lui, à l'inverse de la pub traditionnelle, on va mettre l'humain au centre de la créa et on va surtout mettre l'usage au centre de la créa.
Tout à fait,
Donc
ouais.
ça, c'est une des choses qu'on peut faire ressortir dans le format problème-solution. Ensuite, il y a d'autres formats tels que le tutoriel. Le tutoriel,
D'accord.
c'est pas mal. Pour certains produits qui pourraient
Tactique.
d'entrée de jeu sembler complexes d'utilisation alors qu'en fait ils ne le sont pas forcément. Donc il y a des formats du style comment faire fonctionner ce chauffe-biberon en 5 étapes. Et donc
D'accord.
la personne montre très facilement comment le produit s'utilise et
Et
ça a
montre les
quelque chose de
bénéfices.
rassurant. Exactement. Ça,
OK.
bah, tu vois, ça peut être quelque chose qu'on peut mettre en avant sur une campagne de retargeting.
Oui.
Quelqu'un qui aurait vu le produit et qui aurait hésité à l'acheter, bah ça peut faire partie des contenus qu'on lui montrerait pour lui dire si jamais c'est la peur de la difficulté qui t'a freiné, bah tu vois, en fait, l'utilisation de ce produit, elle est très simple en réalité.
Totalement, ouais. D'accord. Donc là, je pense que si je fais le compte, on en a déjà. Enfin, je sais que tu en as d'autres. Tu as problème solution, tu as tutoriel, tu as unboxing. Il y en a un qui me vient en tête et que tu dois connaître, c'est le témoignage finalement. C'est je monte face caméra et je témoigne, mais pas en mode problème solution. Je dis voilà, j'ai essayé ce produit, j'ai adoré pour telle, telle, telle raison. Parce que ça, c'est un truc que tu recommandes, est-ce que tu utilises beaucoup, est-ce que tu de.
Alors, effectivement, le témoignage face cam, finalement, c'est peut-être le grand classique.
Oui.
Alors, oui, on l'utilise dans certains cas de figure. En fait, là où moi, je l'utilise le plus souvent, c'est pour de la génération de leads. Parce que, bah, tu vois, là, je vais sûrement en surprendre plus d'un, mais je pense que pour la plupart des gens, un UGC, c'est surtout pour de l'e-commerce. Et j'irai même plus loin, je pense que pour énormément de gens, le UGC, c'est pour de la cosmétique.
Oui.
Nous, on s'est mis zéro limite avec Emric et on produit des créas UGC pour toutes sortes d'entreprises et notamment aussi pour des sociétés qui font de la génération de leads. Et a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer, de fonctionner pour certaines de ces boîtes, parce que notre meilleur client à date, c'est justement une entreprise qui fait de la génération de leads et qui nous a déjà commandé 6 packs créa depuis qu'on a commencé à travailler avec.
Ah, donc, d'accord, ça, c'est qui ce client? Enfin, c'est quoi le, c'est pas le nom du client, mais c'est quoi le, qu'est-ce qu'ils font?
Alors, eux, ils font vraiment de la génération de leads, mais dans différents domaines d'activité, pour de la formation, pour de la reconversion,
okay, d'accord,
pour,
ouais, d'accord.
Pour des mutuelles, etc., etc. C'est assez varié. Y a certains de ces domaines où ça peut être compliqué de faire autre chose que du démoignage facecam. Par exemple, l'une des activités pour lesquelles on avait réalisé des créas, pour eux, c'était un changement de mutuelle pour les seniors.
Okay.
Donc, nous, on a la chance d'avoir dans notre communauté de créateurs et de créatrices un très large éventail de profils. C'est assez vaste et donc, on n'a eu aucune difficulté à trouver des retraités pour pouvoir réaliser nos vidéos. Sauf que, tout simplement, physiquement, ça peut être compliqué pour ces personnes de réaliser certaines actions qu'on pourrait, nous, imaginer dans nos scripts. Du coup, d'une manière générale, c'est plus simple de les amener à réaliser un témoignage facecam. C'est aussi plus simple, le témoignage facecam, dans ce cas de figure.
D'accord, oui. Parce que ça demande moins de matériel. Il n'y a pas de produit, excuse-moi de t'interrompre. Et même, ça demande moins de matériel. Finalement, c'est, tu poses ton téléphone quelque part avec un trépied et tu te filmes. D'autant plus, comme tu l'as dit, quand tu es senior, tu as un peu moins les réflexes de tourner en sur plusieurs angles et de
Exactement.
Faire du montage derrière.
Exactement.
Okay.
La personne peut rester assise dans son canapé pendant qu'elle réalise son témoignage. Après,
Exactement.
Voilà, il y a des cas de figure comme celui-ci où on n'est pas sur de l'e-commerce. Il n'y a pas de produit à présenter, donc le témoignage facecam, c'est vrai que ça
il
peut être
bien.
Assez pratique. Mais c'est vrai que sinon, en dehors de ce cas de figure-là, j'aime pas trop abuser du témoignage facecam pour une autre raison, c'est que parmi les créateurs et les créatrices qu'on a, il y en a qui sont plus à l'aise avec certains formats et d'autres qui sont plus à l'aise
oui,
avec d'autres formats. Il y en a, par exemple, qui sont à l'aise pour faire des démonstrations et ensuite enregistrer leur voix en voix off, qui va
Tout
venir du
fait,
coup,
oui,
se greffer sur la vidéo.
Ça, c'est top. Est-ce que tu le considères comme un format à part, du coup, le fait de faire une démonstration et faire une voix off, ou ça reste un tutoriel?
Alors, non, pour moi, ça peut être deux formats différents. Et effectivement,
D'accord.
moi, c'est un format que j'aime bien, même si ça m'arrive même carrément des fois de faire des vidéos UGC où il n'y a pas du tout de voix, ni en facecam, ni en voix off. On va être sur de la démonstration et du texte en incrustation.
D'accord, hyper intéressant.
Partant du principe qu'en fait,
pas de voix
il y a
off.
Beaucoup de personnes qui vont regarder les vidéos sans le son, je me dis que mettre de la voix off ou mettre du témoignage facecam, c'est toujours compliqué. En plus, ça peut impliquer de devoir mettre des sous-titres, ce que moi,
oui,
je n'aime
oui,
pas
sûr.
Faire, parce qu'on
oui.
recommande
c'est
de
long.
Mettre des sous-titres
c'est
à
long.
Cause. Voilà. Sauf que le problème du sous-titre, c'est que ça implique que la personne lise tous les sous-titres. Je parle de la personne qui va voir la publicité.
Oui, bien sûr.
Moi, je vais privilégier l'incrustation du texte pour pouvoir mettre l'accent sur les éléments forts du discours qu'il faut tenir.
D'accord, hyper intéressant. Et franchement, quand tu parles, je me dis, ça serait incroyable si tu pouvais, je ne sais pas si tu as déjà ça en interne, mais une sorte de document qui reprenne justement des exemples pour chacun de ces formats du GC, parce que là, t'as assez bien expliqué à quoi ça ressemble et quelle est l'utilité de chaque format UGC selon le type de business, la température du funnel. Mais ça serait cool d'avoir des exemples. Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui existe en interne que tu peux partager ou je sais pas, ou nous montrer peut-être même maintenant si tu as le temps pour qu'on puisse s'imaginer un peu plus à quoi ressemblent ces formats. Si tu peux pas le montrer, il n'y a pas de souci, mais si jamais tu as un document comme ça, ça serait vraiment parfait. Moi, ça m'intéresserait en tout cas.
Alors, j'ai un truc assez light que je pourrais complètement publier dans un post LinkedIn là prochainement, dans les prochains jours. En fait, c'est quelque chose de très light. Hein. C'est un simple
Okay.
document dans lequel on liste, on rajoute au fur et à mesure toutes les idées qu'on a ou qu'on constate ou qui nous viennent de thématiques de format UGC.
D'accord.
L'intérêt de cette liste, en fait, c'est… alors, elle n'est pas détaillée. Elle n'est pas détaillée dans le sens où on ne va pas dire ce format-là, ça doit être décliné de telle et telle et telle, et telle manière. C'est juste, on va dire, une bibliothèque dans laquelle on peut venir taper lorsqu'on est vraiment en panne d'inspiration. Parce que des fois,
okay.
on va se retrouver face à des marques, des prestations de services ou des produits sur lesquels on a vraiment, vraiment du mal à se projeter pour la rédaction des scripts. Et du coup, on va venir checker un petit peu cette bibliothèque en se disant peut-être que là-dedans, je vais identifier des thématiques qui sont, ma foi, peut-être classiques, mais qui peuvent m'inspirer parce que je vais peut-être me dire bah tiens, effectivement, cette thématique-là, elle collerait parfaitement aux besoins de mon client.
Quand tu dis thématique, c'est format. Hein.
Oui, effectivement, c'est quand je parlais
unboxing,
etc.
Tutoriel.
Ouais,
ok, d'accord. Moi, ça m'intéresse. Donc, tu dis, tu publierez ça sur LinkedIn prochainement, si je comprends bien, parce que je suppose que ce n'est pas encore totalement prêt.
Écoute, allez, je te fais un post LinkedIn là-dessus la semaine prochaine.
Ah ben, moi, hyper chaud.
Je te mentionne dedans.
Ah ben, je veux bien. Ouais, je veux bien que tu mentionnes dedans. Moi, je suis déjà sur ton LinkedIn. Donc, pour ceux qui ne tombent pas sur LinkedIn, donc c'est Julien de Ménonville. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir sur ton nom qu'il ne faut pas se tromper sur l'écriture ou...
Non, c'est Julien, plus loin de, plus loin Ménonville.
Ok, d'accord. Ça me semble assez simple à épeler. On le mettra dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Parce que moi, c'est le genre de truc que j'adore. C'est déjà nous, chez nous, on a plein de documents Notion avec justement pour chaque format de contenu qu'on va créer. Donc, par exemple, offres, bénéfices, témoignages, preuves sociales, etc. On va avoir des exemples de contenu. Ben, c'est exactement ça que tu as l'air d'avoir. Donc c'est parfait.
Top.
Ok. Et est-ce que, juste pour terminer, dans ce document, est-ce qu'il y a des contenus à la fois que vous avez produits, mais aussi d'autres que vous n'avez pas produits, ou c'est que des contenus que vous avez produits ?
Non, il y a les deux. Effectivement, il y a des contenus qu'on a produits et d'autres pas produits. En fait, il y a des contenus qu'on a produits et il y en a d'autres qui sont plutôt des constats qu'on a fait lors de veille. Tu vois, on parlait de Savannah Sanchez tout à l'heure.
Oui.
Moi, Savannah Sanchez, je la suis un petit peu sur tous les réseaux. Dès qu'elle partage un nouveau contenu, je le regarde. Et s'il y a vraiment un truc dont je suis fan, je vais le rajouter dans cette liste.
Des fois, je vais
l'utiliser, des fois pas. Il y en a même des fois où je vais un peu abuser parce que j'aime tellement le format que je vais le réutiliser plusieurs fois. Par exemple, le format du post-it. J'adore le principe du post-it.
Ah, le post-it, c'est trop intéressant, ça. Ouais, j'en ai entendu parler.
Ouais, bah ça, je l'ai déjà utilisé deux fois. Une fois pour des jubiaux et une fois pour des compléments alimentaires.
D'accord, ouais, intéressant. Il y a aussi le TikTok me l'a fait acheter, donc Made Me Buy It. Mm. Donc, je ne sais pas si on peut appeler ça un format UGC, mais en tout cas, c'est un hook qui revient souvent, c'est sur TikTok. TikTok m'a fait acheter ce produit. Et donc, ça commence par une sorte de sticker commentaire qu'on a sur TikTok, si je ne te dis pas de bêtises.
Complètement. Il y a des tendances sur ce genre de trucs, comme par exemple, il y a un autre truc d'un petit peu dans le même style qui marche très bien, c'est quand la vidéo répond à une question qui a été laissée en commentaire sur TikTok. Oui. Et tu as carrément des générateurs de commentaires qui existent pour générer des faux commentaires ou des fausses questions que tu peux rajouter à ta vidéo pour simuler dans ta vidéo, dans ta créa UGC, que quelqu'un t'a posé une question sur ce sujet-là et en fait, du coup, tu réponds toi au travers de ta vidéo à cette question.
Moi, je trouve ça trop intéressant et j'ai l'impression que c'est en effet des formats, et ça fait partie de mes questions, des formats UGC qui sont spécifiques à TikTok. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà testé sur Meta, c'est-à-dire reprendre le format TikTok et mettre sur Meta? Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas?
Ça m'intéresse. Avec Emeric, on a travaillé sur un projet hyper intéressant. C'est toujours un client, d'ailleurs, qu'on gère également maintenant en media buying, en plus des créas UGC, qui vend des stylos dans plusieurs pays, des stylos haut de gamme, dans le style un petit peu Mont Blanc. On a testé effectivement des formats qui marchent bien sur TikTok, comme par exemple le fond vert. Pour certaines de ces créas, Emeric s'était filmé lui-même. Donc sur fond vert où il explique un petit peu les caractéristiques du stylo, ses avantages, ses bénéfices et du coup on a fait un constat, on n'a pas été les seuls à le faire d'ailleurs, hein. Je pense que maintenant ça commence à être doucement de notoriété publique. Des créas produites pour TikTok vont bien fonctionner sur TikTok et également sur Meta, l'inverse n'étant pas vrai.
Donc les créas Meta ne fonctionnent pas forcément bien sur TikTok. Okay.
Exactement. Okay, c'est pour ça qu'on les pense volontairement TikTok first.
D'accord. Et vous avez raison. Et je pense que vous avez raison parce que je suis d'accord qu'un contenu UGC TikTok peut. Mais on le voit déjà, les TikTok que tu publies sur Instagram Reels généralement fonctionnent. C'est connu. On dit qu'il y a beaucoup de vues sur des Reels qui sont en réalité des TikTok recyclés.
Donc, exactement.
À s'aligner avec ça. Ok, mais écoute, on a bien avancé sur ce sujet de vraiment, encore une fois, les différents formats d'UGC et de à quoi ça ressemble en pratique. Donc, pour vos clients, si je comprends bien, les UGC que vous avez l'habitude de faire, ça va être du tutoriel, du témoignage, de l'unboxing, des formats très spécifiques à TikTok comme ceux dont on a parlé. Est-ce qu'il y en a d'autres que vous avez l'habitude de faire parce que vous savez que ça marche? Donc, je suis plus dans la logique de se dire, ok, c'est un peu les formats indispensables qu'il faut tester ou avoir pour un compte publicitaire.
Écoute, je crois qu'on en a cité pas mal. Après, il y en a un autre que moi, j'aime bien et que je pense être assez efficace. C'est je te présente la solution à ce problème en 10 secondes. Ce qui est pas mal avec ce format-là, c'est que dès le départ, tu annonces à la personne que la vidéo va pas durer longtemps. Donc, elle peut se permettre de la regarder. C'est pas ça qui va lui bouffer trop de temps. Et du coup, au cours de cette vidéo, tu vas lui expliquer effectivement en 10 secondes, mais sur des points précis, comment le produit ou le service peut répondre à son problème.
D'accord, ok, intéressant.
Donc voilà, il y a ce format-là qui est assez classique. Il y a, un petit peu dans le même style, il y a trois raisons d'acheter ce produit. Je pense que l'impact psychologique, il est un petit peu le même, c'est que la personne se dit que ça va être rapide. C'est d'ailleurs pour ça que ce genre de format qui est né sur TikTok marche bien, c'est qu'on est toujours sur du format court, finalement, même si ça nous arrive de faire des vidéos qui montent quand même des fois jusqu'à 30 secondes.
Oui, j'aurais bien parlé de ça aussi, la longueur, j'avais pas pensé à ça, mais c'est quoi un peu les longueurs du GC que vous faites? Donc là, tu parles de trois raisons pour lesquelles TikTok me l'a fait acheter, 10 secondes pour résoudre ce problème-là, donc je suppose que c'est des formats très courts, donc 20-30 secondes maximum. Qu'en
Complètement.
est-il des témoignages, des unboxings, des tutoriels? Est-ce que ça doit être moins d'une minute, plus d'une minute? C'est quoi votre expérience là-dessus?
Non, nous, en règle générale, l'expérience qu'on a du format UGC, après, il peut toujours y avoir des exceptions, mais au-delà de 30 secondes, on estime que c'est trop long,
Ah, ok,
qu'on
d'accord.
va perdre l'attention du spectateur. Donc, 30 secondes, on va dire que c'est vraiment la limite qu'on s'est fixée. On ne s'est pas fixé de limite inverse, c'est-à-dire que on peut avoir une vidéo qui fait 12 secondes, c'est pas grave, du
Ok.
moment qu'elle est impactante. Après, ça va aussi beaucoup dépendre de la personne qui va rédiger le script. Le problème, c'est
D'accord.
que moi, j'écris comme je parle et je suis
Ok.
hyper bavard. Donc du
Ok,
coup,
oui, moi aussi, moi aussi. J'ai du
donc
mal
du
quand je veux
coup,
faire des réels, je vais trop loin à chaque fois.
bah écoute, merci CapCut, hein.
Ouais.
Et du coup, quand je rédige des scripts, bah, je suis souvent obligé de revenir dessus déjà, bon, sur la partie écrite pour essayer de réduire un petit peu la durée de chaque plan. Et puis après, bah, il y a le travail en post-prod. Donc maintenant, on a des monteurs qui le font, mais à un moment donné, bah, c'était Emric et moi. Et moi, je le faisais sur Vidéolip. Emric, lui, il était plutôt sur CapCut. Et
Ok,
effectivement,
ouais.
il y a toujours un petit peu un travail un petit peu complexe d'arriver à couper ce qu'il faut pour pas excéder 30 secondes et en même temps ne pas couper quoi que ce soit d'essentiel.
D'accord, je vois. Ouais, c'est ça, il faut toujours regarder l'essentiel. Et justement, il y a une autre question auquel je pense maintenant que je n'avais pas pensé, c'est quels sont les logiciels que vous conseillez pour ceux qui veulent faire un peu du GC par eux-mêmes et qui ne peuvent pas se permettre les services d'une agence, mais qui ont déjà des créateurs, et ça faisait partie de mes questions aussi, peut-être des clients qui peuvent vraiment se filmer. Quel logiciel leur conseilles-tu, leur conseillez-vous avec votre expérience?
Alors, moi, j'en connais surtout deux. Il y en a un qui est gratuit, hein, c'est CapCut.
Ok,
Hein,
je connais aussi.
je crois même que l'outil appartient à Bydance.
Ok.
Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de fonctionnalités intéressantes. Quand on faisait le montage nous-mêmes, c'est vrai qu'Emeric, lui, il aimait bien faire ça sur CapCut parce que il se disait que ça faisait sens, en fait, de travailler ses vidéos sur l'outil qui est déjà soutenu et financé par Bydance, qui est vraiment fait en fait pour fonctionner avec TikTok. Moi, c'est vrai que au départ, quand je me suis lancé dans la vidéo, c'était une époque où j'étais pas encore très présent sur TikTok. J'avais pas entendu parler de CapCut. Et quand j'avais cherché des outils, bah, j'avais trouvé une application qui s'appelle Vidéolip, qui est
Ok.
bah, du coup, je pense, l'autre application qui est, on va dire, la deuxième application la plus utilisée après CapCut, alors qui arrive forcément en deuxième position parce qu'elle est payante. Donc,
Ok, CapCut est
nécessaire.
gratuit?
Alors que CapCut, c'est gratuit. Alors, c'est
Ok.
gratuit sur l'application mobile et apparemment, une version desktop. Et je sais pas, j'ai cru comprendre qu'elle était payante, je suis pas sûr.
Ok, pas de souci.
Après, pour moi, ça fait pas sens de le faire en desktop parce
Pas du tout.
que,
Ah oui,
bon.
de.
Voilà, pour moi, on est sur de la création de contenu qui a consommé en situation de mobilité. Donc voilà. Par contre, c'était assez drôle d'ailleurs que quand je travaillais mes montages sur Vidéolip et que j'avais des fois des gens qui passaient à côté de moi, bah du coup, pour eux, j'étais pas du tout en train de travailler parce qu'ils me voyaient juste sur mon
Sur ton
smartphone.
téléphone, ouais, sur ton téléphone. Mais donc tu trouves que ces deux outils sur smartphone te permettent de faire du montage, ben justement, sans trop de technique, parce que je sais que de base, Emric n'est pas un créatif, c'est-à-dire c'est pas lui qui fait qu'utilise des logiciels de montage comme Canva, comme la suite Adobe, pour faire du contenu, et que pourtant, toi comme lui, vous avez arrivé à les utiliser sur votre
Ouais,
smartphone.
complètement. Pour moi, ils sont très intuitifs, ils sont très simples d'utilisation et c'est vraiment fait pour être accessible au plus grand nombre. L'idée étant qu'il y ait un maximum de personnes qui utilisent ces outils-là pour la création et la diffusion de leur contenu sur les réseaux sociaux et notamment TikTok. Donc, très très simple d'utilisation. Vidéolip, comme il est payant, bah, ce qui est assez normal, il offre, on va dire, un peu plus de fonctionnalités. Il offre des choses un petit peu plus intéressantes à différents niveaux. Alors, il y a par contre une chose qui manque sur Vidéolip, et je trouve ça assez dommage, alors que cette fonctionnalité, elle existe sur CapCut, c'est la possibilité d'uploader ses propres polices de caractère.
Ah bah ouais, ça serait 10 fois mieux. Ça serait
voilà,
10 fois mieux.
malheureusement sur Videolib, t'es pour l'instant, parce que l'application continue d'évoluer, t'es contraint à une liste de polices qui est proposée par l'application.
Et les polices, elles ressemblent à celles que tu as sur TikTok et sur Meta ? Parce que ça serait bête d'avoir des polices, ok, ouais, j'allais dire. Ouais.
Énormément, non. Le style est très approchant parce que le but, c'est ça,
c'est
en fait,
ouais.
c'est de garder les codes de ces réseaux tout en offrant, on va dire, un peu plus de fonctionnalités qu'on pourrait en avoir sur CapCut pour offrir aux gens la possibilité de faire des choses un petit peu plus fun, de générer des effets un petit peu plus amusants.
D'accord, j'ai compris. Ok, mais c'est la petite parenthèse, c'est sur le logiciel que tu peux utiliser pour le montage des UGC, donc il y a Videolib, CapCut.
Ouais.
CapCut gratuit et Videolib payant.
C'est ça.
Pour la longueur.
Pour la partie logicielle. Après, il y a aussi la dimension matérielle.
Oui, bah oui. Faisons ça aussi. Matériel, s'il te plaît. Donc, tu m'as expliqué la dernière fois que tu as un iPhone 13 Pro
ouais.
Avec une très bonne caméra. Là, j'ai le 14 Pro depuis quelques jours.
Ah, tu dois bien t'éclater avec.
Je pense que je vais bien m'éclater parce que je vais commencer à faire plus de vidéos, je vais faire des réels, des TikTok, etc. et me commencer à filmer ces podcasts avec la caméra de mon smartphone, si
ouais.
tout va bien. Et je vois que sur les nouveaux smartphones, tu as un mode cinématique. Est-ce que ça, c'est un truc qui est intéressant pour quand tu fais l'UGC ? Enfin, d'abord, dis-moi le matériel que tu conseilles, puis après, on parlera des modes qu'il y a dans les iPhones.
Non, mais tu as raison. C'est vrai que le mode cinématique, il est très sympa. Et je ne sais pas si tu es d'accord avec ça maintenant que tu as l'iPhone 14. Donc moi, effectivement, j'ai le 13 Pro Max. Mais... le fait de constater avec ces smartphones-là qu'on arrive à faire des vidéos et des photos hyper quali avec des rendus vraiment sympas, bah en soi, ça fait de nous des créateurs de contenu en puissance parce que ça nous donne envie de créer du contenu.
Ouais, non, mais trop d'accord. Bon, là, je n'ai pas encore tout testé dans l'appareil photo. J'ai juste regardé un tout petit peu la caméra. Ça fait 2 jours que je l'ai. J'ai vu une différence. Hein. Quand tu mets le mode cinématique, putain, pardon, tu vois vraiment, tu as le focus sur truc, l'objet ou la personne que tu filmes.
Le problème du mode cinématique, alors moi, c'est un mode que j'adore. Le mode cinématique, c'est vraiment très, très cool comme truc. Mais le problème, c'est que c'est un jouet, ce truc-là. Et comme tous les jouets, et quand on est un grand gamin comme moi, bah, on a tendance à vouloir en abuser. Et,
okay.
Et moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment sympa à utiliser, mais dans des circonstances très précises. Par
okay.
exemple, pour du témoignage facecam,
oui. Ça fait bizarre.
Le mode cinématique, c'est super. Non, au contraire,
ah, c'est
très sympa.
C'est super. Ok, j'allais dire, c'est bizarre parce que
ça va ouais. créer une fausse profondeur de champ. Et
ouais,
du coup,
ouais,
ça va légèrement flouter l'arrière-plan pendant que la personne parle. Inversement, quand tu filmes une scène en action, ça peut être plus touchy. Par
ouais,
exemple, j'ai parlé d'une marque de stylo avec laquelle on travaillait tout à l'heure. Et du coup, ça me permet parfaitement là de faire le lien avec le côté matériel. J'utilise notamment un stabilisateur. J'ai un DJI OM5. Donc ça me permet dans une situation où moi j'ai besoin de bouger autour de la personne ou de l'objet qui doit être filmé, bah, de garder une image qui est quand même assez stable. Donc c'est
ouais,
quand même très pratique.
Okay. D'accord. Quand tu bouges, un stabilisateur, ok.
Et je me rappelle que quand j'avais utilisé mon iPhone 13 Pro Max, mon stabilisateur, et que j'avais filmé la main de ma femme, parce que j'avais mis ma femme à contribution à ce moment-là pour
okay.
écrire avec bah justement le fameux stylo sur une feuille et montrer qu'il
ouais.
écrivait bien, qu'il avait une très jolie écriture, donc je m'étais mis en mode cinématique. Et là, je me suis rendu compte d'un truc très chiant, c'est que le point se faisait sur la main et pas sur le stylo, ni sur ce que le stylo était en train
ouais,
d'écrire.
Ouais, ça devait être chiant, ouais.
Surtout qu'en plus, ce qu'elle écrivait sur la feuille, c'était hyper important parce qu'elle écrivait certaines caractéristiques fines du stylo.
Du produit.
Et
ah,
on
du
arrivait
stylo,
à lire que quand elle enlevait sa main. Donc, je me suis rendu
ouais.
compte qu'en fait, le mode cinématique, c'est parfait sur des situations style témoignage face cam, mais que dans d'autres situations, il vaut mieux opter pour le format vidéo classique.
D'accord, le vidéo classique. Ouais, je sais qu'ils ont aussi un mode ProRes, mais je n'ai pas trop compris exactement quelle est la différence avec le mode classique. Je ne sais pas si toi, tu sais, mais là, on rentre dans le détail des produits Apple. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ils ont ce mode-là qui paraît qui est un peu mieux que le mode normal. Je n'ai pas trop compris pourquoi.
Ouais, complètement. Bah globalement, ouais, c'est vrai que le rendu est assez fun parce que je pense que c'est un petit peu comme toutes les personnes qui s'intéressent à la photo. Moi, j'ai acheté un appareil réflexe à un moment donné et j'avais qu'une envie, c'était d'arriver à faire de la profondeur de champ comme tous les professionnels de la
oui,
photo.
C'est ça.
Donc, à partir du moment où je me suis acheté un smartphone qui arrivait à le générer automatiquement, bon, bah, je me suis dit, oh,
Voilà, et ça, je trouve que ça fait déjà beaucoup. Donc clairement, en gros, achetez un téléphone, quel qu'il soit, un smartphone qui vous permet d'avoir de la profondeur de champ, d'avoir une très bonne qualité au niveau de la vidéo, donc filmé en 4K, 60 IPS, ou je sais pas si c'est IPS ou FPS, j'oublie tout le temps, 60 ou 30 ou 24, mais vous devez pouvoir faire ça avec votre téléphone, quelle que soit la marque. Tu parlais aussi d'un stabilisateur, ça c'est important si voilà, vous êtes dans un environnement où vous allez beaucoup bouger le téléphone pour faire un tutoriel par exemple, il va y avoir du mouvement.
Si tu filmes en extérieur par exemple, en intérieur, tu peux stabiliser ton téléphone en le posant quelque part pendant que tu fais ta démonstration produit. Mais récemment, on a tourné pour un client qui fait des vérandas. Donc ça implique de tourner un petit peu en extérieur, de bouger autour de la véranda. Et même si encore une fois on est sur du UGC et que le UGC doit sembler naturel et organique, c'est pas pour ça qu'il faut forcément se dire si mon truc est un peu sale et que ça bouge beaucoup, c'est pas grave. Je veux dire, on a la possibilité aujourd'hui d'arriver à créer des trucs qui sont plutôt cool. Je veux dire, on n'est pas sur du gros matériel à 50 000 euros. Hein. Un stabilisateur, ça coûte 150 euros. On utilise ça avec un smartphone et une application du style CapCut. Ça fait pas de nous des gros spécialistes de la production audiovisuelle. Le vidéo est sympa et je pense que c'est le minimum pour arriver à faire quelque chose de quali qui va donner envie aux gens.
Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais je rajouterais peut-être un autre outil peut-être utile, c'est une petite lumière. Je sais pas si ça peut être utile.
Tu vois, ça tombe bien que tu parles de ça parce que justement, j'allais y venir. Il y a un site web que je recommande à toutes les personnes qui veulent se lancer dans la création de contenu qui est génial, qui s'appelle Elgato.
Ah oui, j'ai entendu, ils ont plein de trucs, ils ont plein de matériel, dont des fonds verts.
Ils ont des fonds verts, ils ont des bras articulés pour pouvoir fixer justement des lumières, c'est pour ça que j'en parle. Des lumières, des micros, ton smartphone tout simplement, à différents niveaux, avec différents angles, etc. Parfait. Et tu vois, c'est marrant parce que bon, effectivement, si tu leur achètes la totale, ça peut faire un budget. On reste quand même sur des montants qui sont largement inférieurs à ce que peut coûter une caméra ou un appareil photo très, très haut de gamme. Ceci étant dit, là, on peut doucement se retrouver à franchir la ligne rouge. C'est-à-dire que... c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quali et il y a trop pro. Et pour moi, trop pro... l'éclairage, on commence à rentrer un petit peu dans ce débat-là. Avec Aymeric, c'est un point sur lequel on est assez d'accord, c'est que les meilleurs éclairages qu'on ait obtenus sur des vidéos, c'est l'éclairage naturel. C'est la lumière du soleil. Souvent, nous, ce qu'on conseille aux créateurs et aux créatrices de contenu, c'est de tourner pendant la golden hour, c'est-à-dire tôt le matin ou en fin de journée, lorsque la lumière inonde.
Mais en fin de journée, il y a moins de lumière.
Pas en fait quand tu as le soleil qui rase.
Une heure avant, non, 2-3 heures avant le coucher de soleil, non? Ou je dis bêtise?
Ouais, c'est ça, je dirais 2-3 heures avant le coucher de soleil. Alors après, moi, je suis peut-être moyennement objectif là-dessus dans la mesure où j'habite la Côte d'Azur. Mais,
C'est ça, c'est compliqué. Moi, je te dis, en Belgique, avec le ciel plus nuageux, là, le soleil se couchait à 18h30, après 16 heures, je ne pouvais plus rien filmer.
Ouais, non, effectivement, nous, c'est plutôt à partir de 16 heures ici. En tout cas, moi, sur la Côte d'Azur, à partir de 16h, c'est vraiment le moment où on a la plus belle lumière.
D'accord.
Quand on peut éviter, moi, je suis plutôt du style à pas recommander la lumière artificielle.
D'accord, je suis d'accord. La lumière artificielle.
À un moment donné, je m'étais quand même équipé parce que pour moi, c'était pas possible d'être dépendant de la météo ou de l'orientation ou du moment de la journée. Je trouvais que c'était quand même important d'avoir du matériel pour pouvoir compenser les caprices de mère nature et du coup d'avoir un éclairage qui va bien, etc. Mais alors c'est marrant, tu vois, autant on utilise des super smartphones qui font des super vidéos, on a des stabilisateurs, ça paraît déjà beaucoup, mais même si on arrive à faire des vidéos qui sont quand même assez quali avec tout ça, ça reste, le rendu reste assez naturel. Et ce qui est marrant, c'est que dès lors que tu ajoutes un petit détail comme l'éclairage, ça paraît pas forcément grand-chose à côté du reste, mais tout de suite, ça va amener quelque chose de très artificiel au résultat, je trouve.
Je comprends.
Tu vois, c'est marrant parce que quand bien même pour l'enregistrement en témoignage face cam ou l'enregistrement des voix off, j'ai aussi, j'ai oublié de le dire, j'ai un micro-cravate. Pour le coup, j'ai pas lésiné, j'ai acheté un Lavilliers 2 de chez Rode, donc ça doit coûter dans les peut-être 200 euros. Même là, tu vois, j'ai pas de souci avec le fait de filmer quelqu'un en témoignage face cam qui va avoir le petit micro-cravate qui apparaît comme ça en haut du vêtement. Pour moi, ça gâche rien sur le côté un peu naturel de la vidéo. L'éclairage, je trouve que c'est vraiment
Ok.
quelque chose à part. Je trouve que c'est vraiment quelque chose à part
D'accord.
qui va vraiment donner une dimension potentiellement très naturelle ou au contraire très artificielle au résultat final de la vidéo.
Ok, ben, pour moi c'est hyper clair. C'est qu'en gros, faut un certain nombre de choses pour faire de la vidéo, donc un bon smartphone, un stabilisateur éventuellement, un trépied, on l'a peut-être oublié de le dire, mais c'est important d'en avoir un. Par contre, la lumière, attention, privilégiez la lumière naturelle et utilisez la lumière artificielle si vous n'avez pas une bonne lumière, sauf que ça peut rendre votre vidéo moins authentique. Donc c'est toi qui as l'expérience, donc c'est toi qui sais. Et j'allais juste vous dire, pour ceux qui ont besoin de micro, moi j'utilise un micro qui se pose directement sur le connecteur du téléphone. Et donc en fait, on ne voit pas de micro-cravate, donc c'est plutôt cool. Mais
Top ça.
après, il faut pas mettre le téléphone trop loin, sinon ça marche pas. Ok, bah écoute, moi j'ai fait le tour sur mes questions. Je réfléchis encore s'il y a d'autres choses. Donc on avait parlé de TikTok. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses par rapport au UGC sur TikTok par rapport à Facebook Ads? Donc tu as expliqué que tu peux réutiliser des UGC TikTok sur Meta, donc sur Facebook, Instagram, et que ça marche. Par contre, faire l'inverse, c'est pas l'idéal. On a parlé des formats UGC TikTok. Je sais pas si on a d'autres qui te viennent en tête. S'il n'y en a pas, c'est pas un souci, mais je m'en assurais.
Alors, ce que je pourrais dire, c'est que, tu vois, au début de notre aventure KickAds avec Emeric, le principal point de désaccord qu'on avait, c'était justement sur la différence de qualité que doit avoir un format UGC. Lui, il
OK.
prenait que la vidéo devait vraiment avoir un côté très très brut, alors
OK.
que moi, j'étais plutôt dans la recherche de qualité.
Comme tu l'as dit, ouais.
Aujourd'hui, je constate qu'en fait, je réalise en fait que notre désaccord, c'était pas vraiment un désaccord. Finalement, en fait, on disait la même chose, c'est juste que lui était déjà, comment dire, très à fond sur TikTok. C'est-à-dire que lui, TikTok, c'était vraiment sa référence pour la création de UGC. Et puis moi, je crois que, en tant qu'expert en social ads, j'ai passé tellement de temps à travailler particulièrement sur Facebook Ads que je réfléchissais davantage au rendu de mes pubs sur des placements Meta que sur TikTok.
Ok.
Et en fait, le jour où j'ai vraiment compris
Que c'est l'inverse.
la réflexion d'Emeric, c'est un jour où moi-même, j'ai failli acheter un produit à partir d'une pub TikTok. Ça
D'accord,
m'est
ouais.
très très rarement arrivé, c'est un truc qui est marrant, et d'ailleurs j'ai fait un commentaire là-dessus il n'y a pas très longtemps. C'est marrant, mais en tant que publicitaire, ça m'est quasiment jamais arrivé de moi-même aller acheter un produit après avoir cliqué sur une pub sur les réseaux sociaux.
Comme pareil, 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 très rare.
Voilà. Je crois que c'est arrivé genre deux fois.
Ok.
Et l'une des deux fois, bah, c'est justement après avoir vu une pub TikTok. Et cette pub-là, bah, elle était parfaite parce que là, pour le coup, c'était un UGC. C'était vraiment un UGC qui était parfait parce que je n'ai pas du tout réalisé que c'était une pub. Et
D'accord.
pourtant, je suis publicitaire et je n'ai pas du tout réalisé que c'était une pub. Donc j'étais là en train de swiper sur TikTok. Et moi, j'adore Star Wars. J'adore vraiment, vraiment Star Wars. Et là, en fait, c'était vraiment une vidéo sale, quoi. On voyait un mec qui avait filmé ça. Pour moi, c'était vraiment de l'organique. Il prenait un manche de sabre. On comprenait que c'était un jouet, évidemment, hein,
Oui.
enfin, que c'était un faux, sur son lit, sur le lit de sa chambre, tout simplement. Et il avait mis la musique, une musique de Star Wars derrière qui passait hyper bien. Et il actionne en fait son sabre et on voit le rayon laser en fait qui sort du sabre. Et je me dis, mais c'est fou, c'est tellement bien fait de tous les sabres, de tous les jouets sabres Star Wars que j'ai vus jusqu'à maintenant. C'est le premier que je vois aussi bien fait. Je trouvais ça
OK, ouais.
incroyable. Et c'est quand la vidéo s'est terminée que j'ai percuté que c'était une pub. Et pour
C'est clair,
autant,
ouais.
je me suis dit, mais ce sabre, il est ouf. Et du coup, bah, j'ai cliqué sur le call to action et je me suis rendu sur le site web. Et c'est vrai que cette vidéo-là, bah, finalement, si
Elle
elle avait
était.
été plus qualitative,
Ouais,
bah,
c'est
j'aurais
ça.
grillé tout de suite que c'était une pub
Que
alors que
c'est une
là, non.
publicité. C'est vraiment ce que je voulais rajouter. C'est honnêtement, vous avez tous les deux. Il y a ce gros débat du est-ce que le UGC doit être de bonne qualité au niveau du filmage, de comment il a été réalisé, ou est-ce qu'il doit être brut de décoffrage, comme tu disais au départ, et qu'il y a un débat là-dessus avec Embrick ou aussi avec d'autres clients. Je pense que ça dépend. Il faut tester les deux. Il n'y a rien à faire. Il faut aussi, ça dépend du produit, je dirais. C'est un UGC brut de décoffrage pour, je sais pas moi, des produits qui coûtent cher. Je ne sais pas si ça marcherait. Donc, mais je ne
Ouais,
sais
je suis
pas. Je
complètement
ne sais pas
d'accord.
non plus. Donc, testons, faut tester les deux. Il vaut mieux se dire que on ne sait pas avant de l'avoir testé. Mais d'après ton expérience, bah voilà, des UGC de bonne qualité, ça fonctionne très bien aussi, contrairement à ce que d'autres pourraient dire qu'un UGC de très bonne qualité n'est pas un UGC, voilà, pour le même débat.
En fait, j'adore ce que tu as dit il y a deux minutes, parce que pour moi, c'est l'essence même de notre profession.
Ben oui,
il faut tester. Pour moi, c'est un métier où en fait, on passe notre temps à mettre en compétition des éléments avec d'autres éléments, des audiences avec d'autres audiences, des créas avec d'autres créas, des formats avec d'autres formats, etc., etc.
Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, on n'a pas toujours la vérité absolue. Mais voilà, il y a déjà des choses qui se démarquent dans ce que tu as dit, c'est qu'un UGC de bonne qualité qui est chiadé peut bien performer sur Meta, sur TikTok aussi. Sur TikTok, c'est vrai qu'il faut aussi avoir du format un peu adapté à TikTok, comme on l'a vu avec les différentes mises en forme, les différents scroll stoppers, le TikTok made me buy it, le sticker question, etc. Et donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, dans tous les cas, il faut s'adapter à la plateforme et aux tendances actuelles, je pense.
Complètement, ça évolue et je pense qu'il faut suivre cette évolution, il faut s'adapter et c'est la raison pour laquelle on est tous venus sur les régies social ads, hein. C'est parce que à un moment donné, on savait que c'était là que ça se passait.
Exactement. J'ai peut-être une dernière question pour toi, qui n'était pas prévue non plus, c'est comment tu analyses la perf d'un UGC au-delà bien sûr du coût d'acquisition, du ROI, c'est-à-dire que plus le coût d'acquisition est bas, mieux c'est, plus le ROI est élevé, mieux c'est parce qu'on veut avoir de la rentabilité, mais est-ce qu'il y a d'autres métriques que tu utilises pour juger de la qualité de ton UGC? Moi j'en ai deux en tête, mais je te laisse peut-être dire si tu en as quelques-unes de ton côté.
Ouais, alors j'en ai après les KPI qu'on va suivre, pour évaluer des performances de nos créas, ce sont les mêmes qu'on va utiliser quelle que soit la créa. C'est-à-dire que on va pas surveiller des KPI spécifiques parce que c'est du UGC, on va pas surveiller des KPI qui seraient différents de ceux qu'on surveillerait si c'était une vidéo publicitaire pas UGC.
Je suis d'accord. Mais là, dans le cas d'un UGC, c'est généralement une vidéo et on sait que pour la vidéo, il y a toujours des KPI intéressants à avoir.
Complètement. Donc, évidemment, on va regarder les KPI de base, hein, ceux que tu as mentionnés, les volumes, les coûts d'acquisition et le ROS. Et au-delà de ça, plus en détail, on va regarder les vues de vidéos de 3 secondes pour estimer si c'est en augmentation ou pas par rapport aux vidéos publicitaires plus classiques qu'on a pu tester préalablement pour voir si le scroll stopper est plus efficace ou pas par rapport soit au UGC qu'on a déjà diffusé avant, soit au format vidéo publicitaire qui ont pu être testés par la marque avec laquelle on travaille avant qu'on bosse avec.
Oui, c'est ça.
Ensuite, on va regarder les clics, évidemment. Alors, ça va toujours être un petit peu en comparaison de ce qui a été fait avant. Tu le sais, tu peux aussi avoir des gros taux de clics sur une pub qui au final fonctionne pas des masses.
Ouais,
donc on va toujours comparer ce taux de clics par rapport aux autres publicités qui ont bien marché par le passé pour voir si cette pub elle marche mieux et est-ce qu'elle a un taux de clic qui est supérieur ou pas. Parmi ces KPI, on regarde également le revenu par clic, le taux de conversion et voilà.
Ok, moi il y en avait deux autres que j'ai en tête, que tu connais sûrement, je pense que tu en as déjà entendu parler, ils sont plus techniques, il faut les créer soi-même dans le gestionnaire. C'est le premier, c'est le hook rate, donc en gros c'est ce que tu as dit, c'est les vues de vidéo à 3 secondes, sauf que tu les divises par les impressions pour avoir un taux finalement, et donc le comparer à tes différentes vidéos, différents UGC, et donc évidemment, plus le hook rate il est élevé, mieux c'est. Ce que disent les marketeurs comme Savannah Sanchez ou Dara, c'est que c'est bien d'avoir des hook rates supérieurs à 25% de ce qu'elles disent, qu'au-delà de 25%, c'est plutôt bien, mais qu'ils ont des comptes où ils ont des hook rates à 50%. Et on a un autre que j'aime bien aussi, c'est, il ne faut pas que je l'oublie, sur le coup, c'est le hold rate. Donc c'est, je pense, si tu regardes les vues de vidéo à 95% par rapport aux vues vidéo à 3 secondes. Si je ne te dis pas de bêtises, il faudrait que je regarde à nouveau c'est quoi. Là, j'ai un trou de mémoire, je ne sais pas si tu le connais. Et en gros, tu regardes en gros si les gens vont jusqu'au bout, mais j'ai un doute. Sur le coup,
Le second, ça ne me parle pas. Semble intéressant. Par contre, le hook rate, ça, j'en ai récemment entendu parler et je crois qu'Emeric, d'ailleurs, a fait un post LinkedIn sur le sujet. Lui, je crois qu'il se l'est déjà ajouté dans les custom métriques qu'il a paramétré dans ses tableaux de suivi, dans ses gestionnaires de pub. Moi, je l'ai pas encore fait, il faut que je m'y mette.
Ouais, écoute, je te le conseille, il est vraiment bien celui-là, je trouve que c'est bien de le regarder pour les différentes vidéos publicitaires que vous lancez. Le hold rate, je suis désolé, je me rappelle plus exactement de comment on le calcule, j'essaierai de retrouver ça à l'occasion et voilà, si je le retrouve, je le dirai dans un autre podcast.
Ça marche.
Voilà, écoute, moi j'ai plus de questions pour toi. Je pense avoir vraiment tout dit, c'était très très complet. Comme je dis au départ, c'était cool de parler un peu de fonctionnement de votre agence, de comment vous faites, de vous réaliser des tournages du GC, quelles sont les choses à faire, à ne pas faire. Et ensuite, bah, comme on l'a vu dans cette deuxième partie, sur bah, quels sont les meilleurs formats UGC, comment ils s'intègrent dans un funnel de conversion, quels sont des petits conseils que tu peux donner en matière d'outils à utiliser. Mm-hmm. Donc, moi, c'était très complet. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter ?
Écoute, là, je pense qu'effectivement, on a dit pas mal de choses. Après, c'est vrai que c'est un domaine qui est hyper intéressant sur lequel on pourrait encore en dire parce que il y a deux publics finalement qui s'intéressent à la thématique du UGC. Il y a même trois publics en fait. Il y a les marques, il y a les agences et il y a les créateurs et les créatrices de contenu en devenir. Vrai.
Exactement, ils veulent aussi gagner leur vie avec ça.
Exactement, et ceux qui ne sont pas forcément encore créateurs et créatrices, qui veulent se former et qui veulent profiter de l'occasion parce que on a beaucoup de personnes qui sont déjà quelque part un peu des créateurs et des créatrices, tu sais, des personnes qui ont par exemple des blogs et qui parlent de leur voyage ou de leur passion pour certains types de produits ou certaines marques,
ouais,
qui finalement n'ont qu'un pas à faire pour devenir des créateurs de contenu UGC, c'est-à-dire saisir l'occasion de continuer de partager leurs passions et leurs loisirs tout en arrondissant les fins de mois. Donc voilà, il y a les agences parce que les agences voient qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, donc elles veulent rajouter à leur arc cette corde.
C'est ça, parce qu'elles se rendent compte que beaucoup de marques n'arrivent pas à les produire par elles-mêmes ou alors n'ont pas les ressources, n'ont pas le réseau de créateurs pour le faire. Mmh. Ou se rend compte simplement que la perf de leur campagne pourrait être meilleure en Exactement. Intégrant ce type de contenu à leur offre. Ouais, je suis d'accord,
il y a les marques évidemment que ça intéresse de deux façons. La première, c'est tout simplement de se dire est-ce que on se lance ou pas dans le UGC, et je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont plutôt partantes parce qu'elles voient que c'est quelque chose qu'elles vendent en poupe et c'est surtout quelque chose qui est abordable. Donc d'un point de vue budgétaire, il n'y a pas vraiment de frein. Et après, donc, j'ai dit de façon différente parce que il y a les marques qui ont décidé de se lancer et qui vont s'adresser à une agence. Et puis, il y a les marques qui vont décider de se lancer, mais qui vont, développer le truc en interne de la même manière que, comme pour le media buying, il y a des boîtes qui passent par des agences et qui finissent par internaliser. Pour le UGC, c'est pareil, elles finissent à un moment donné par développer un service ou des compétences en interne pour pouvoir produire leur propre vidéo UGC.
Il y a une marque qui fait ça très bien, c'est la marque Horace, que je vous Exactement. Conseille de
Maxence
suivre, Maxence Godard. Ils font ça très bien, ils ont un bon réseau de clients cette fois-ci et de créateurs, et donc ils ont un peu les deux. Ils font ça très 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 bien. Donc allez voir leur bibliothèque publicitaire. Je les ai interviewés sur le podcast en début d'année, donc vous allez écouter l'épisode avec Maxence, on n'a pas parlé que du GC, et ils nous expliquaient concrètement comment ils briefaient leurs créateurs et leurs clients pour tourner des belles vidéos dans lesquelles, donc Horace, c'est une marque pour les soins de la peau, soins pour les hommes, et comment faire des démonstrations d'utilisation de leurs produits, que ce soit pour avoir des cheveux en meilleure santé, avoir une belle peau, etc. Et donc je trouve que c'était plutôt bien fait comme process.
Ouais, Maxence, c'est vraiment quelqu'un d'hyper sympa, hyper intéressant et puis hyper compétent. Je l'avais reçu également à l'occasion d'un webinaire sur le sujet des UGC. Et c'est quelqu'un qui a vraiment défini un process qui est hyper bien rodé pour le recrutement et l'encadrement de ses créateurs. Et comme on peut le voir justement, tu disais d'aller voir la bibliothèque publicitaire, comme on peut le constater dans leur bibliothèque publicitaire Meta, aujourd'hui, lui, il ne fait plus que ça.
Ils font plus que ça. Est-ce que ce webinaire que vous avez fait avec Maxence est encore disponible en rediffusion ? Ça peut être un bon complément à ce podcast ?
Alors je suis pas sûr, mais par contre ce que je sais c'est que j'ai toujours la vidéo et je pensais tout regrouper là à un moment donné sur un compte YouTube, donc de la même manière je vous invite tous et toutes à me suivre à fond sur LinkedIn pour être sûr de pas louper le moment
il est fort. C'est ma question de fin, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver, donc je suppose sur LinkedIn.
Ouais, LinkedIn, c'est vrai que c'est mon réseau de prédilection. Là, malheureusement, ça doit faire un bon mois et demi que j'ai rien partagé, ce qui est assez bizarre pour moi parce que ça fait 3 ans que je postais quasiment tous les jours. Sauf que je me suis retrouvé là il y a plusieurs semaines dans la situation où j'avais deux jobs. mon job chez Adpremier en tant que Head of Social Ads, mon job chez Kickads en tant qu'associé, plus ma famille, puisque je suis père de deux enfants. Ma femme a aussi changé de job et maintenant elle a un boulot qui fait qu'elle est en déplacement quasiment toutes les semaines. Donc je me retrouve à gérer tout seul les enfants.
C'est pas simple.
Donc voilà, j'avais ces trois casquettes là ces dernières semaines, j'en pouvais plus. Et le truc qui est passé à la trappe, c'est les posts LinkedIn.
Bon, je vais te conseiller un truc, Julien, mais ne le dis à personne. Tu peux recycler tes posts que tu as publiés il y a un an et si ils font encore sens, tu les balances. Moi, je fais ça des fois.
Ça marche. Écoute,
vous avez entendu.
Je vais passer un peu en revue ce que j'ai publié par le
passé. Sincèrement, c'est une bonne technique. Il ne faut pas en abuser. Il faut que ça fasse sens. Il faut que ça apporte de la valeur. Et voilà, moi, j'aime bien le faire de temps en temps. Je fais ça 2-3 fois par mois en toute honnêteté sur 20 posts. Donc voilà. Vous gênez pas.
Ça marche.
Suivez-nous sur LinkedIn. Donc Julien de Menonville et bien sûr votre fidèle serviteur, vous savez où me trouver sur LinkedIn. Voilà. Merci à toi, Julien. Julien, je termine aussi sur. Vous pouvez aussi les retrouver sur kickads.eu et on mettra tout ça dans les notes de l'épisode. Merci
beaucoup, Danilo. Julien.
Allez, à très vite.
Merci, salut.
Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. Si vous avez aimé cet épisode, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parlez-en autour de vous, partagez-le sur les médias sociaux en me taguant, ou encore mieux, laissez-nous une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire grandir la communauté autour du podcast de manière 100% organique. Allez, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.